Salut tout le monde et bienvenue dans Inspire, le podcast qui est fait pour vous inspirer. À travers cette émission, je vais recevoir plein d'invités, qu'ils soient artistes, sportifs ou même des personnes très inspirantes du quotidien, et je vais revenir sur leur parcours en leur posant plein de questions. Parce que je suis persuadé que peu importe qui on est, ce qu'on fait et d'où on vient, on peut tous s'inspirer les uns les autres. De leur début, en passant par des moments clés de leur vie personnelle et professionnelle, qu'ils soient des moments forts ou des moments plus difficiles, peut-être que vous allez vous reconnaître dans leurs histoires, parce qu'on passe tous par des moments comme ça dans la vie. C'est pour ça que je suis très heureux de vous proposer ces échanges qui promettent d'être très inspirants. Dernière petite info avant qu'on commence, si vous voulez voir cette émission en version vidéo, c'est possible, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Tony t'inspire. Installez-vous confortablement, inspirez profondément et profitez de votre écoute. Alors, aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois un poteau. Et ça fait très longtemps que je veux t'avoir dans ce podcast et que je te saoule pour que tu viennes. Je suis très, très, très heureux de t'avoir. Un mannequin international avec une carrière et un parcours incroyable sur lequel on va avoir la chance de revenir dans Inspire. Un comédien aussi, puisqu'il y a une évolution dans ta carrière et ça aussi, on y reviendra. Aurélien, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ouais, ça va super. T'es bien installé?
Très bien installé, très bien accueilli.
Ok, trop cool. Bon, écoute, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. On va revenir un petit peu sur le concept. Je t'explique avant qu'on commence. C'est le mot inspire. C'est vraiment ça. L'objectif, c'était pour moi d'avoir quelqu'un de très inspirant au parcours atypique. Donc, voilà pourquoi t'es là.
Merci.
Et puis, on va revenir sur les 7 lettres de ce mot pour les 7 chapitres, ouais. À commencer par le I jusqu'au E. On va revenir là-dessus. La petite gimmick avant qu'on commence, c'est qu'on prenne une grande inspiration. Je lance le jingle, on est parti. T'es prêt?
Ok, passe. Allez.
Allez, on inspire. T'inspires fort, toi. T'as mis dans la vibe le jingle?
Ouais, j'aime beaucoup. Ah, franchement, tous les matins, je crois. Hein.
Allez, ça part, je te l'enverrai.
Avec plaisir.
Aurèle, on commence par le I de Inspire qui représente les initiales. Et c'est peut-être la seule chose que je t'ai de plus ou moins demandé de préparer avant qu'on se voit.
Parce
que
voilà,
l'idée, c'était qu'on garde un peu cet échange un peu spontané. Ouais. Mais du coup, pour le I, t'avais quand même besoin d'y penser. I pour les initiales de A et de M, Aurélien Muller.
Oui.
Je t'avais demandé de choisir deux mots qui représentent ces initiales-là. Ça peut être un trait de personnalité, ça peut être simplement un souvenir, un objet, un plat, un truc un peu chelou, peu importe, qui te tient à cœur. Est-ce qu'on commencerait pas par le A, d'ailleurs? Qu'est-ce que tu as choisi pour ça?
Alors, pour le A, ça aurait peut-être été un autre mot. Je t'aurais dit ça 4 ans avant.
Okay.
Mais à partir du 9 janvier 2019, c'est devenu Ayana.
Ouais.
Donc, le nom de ma fille.
Ok.
Forcément, qui aujourd'hui représente, j'ai envie de te dire, toute ma vie, en fait.
Bien sûr.
Et la raison pour laquelle j'ai envie de continuer à faire ce que je fais et à surtout, au-delà de me rendre fier, la rendre fière aussi.
Bien sûr.
Et lui montrer, entre guillemets, l'exemple du travail et de réaliser ses rêves. Et que, voilà, ça comporte des sacrifices, mais ça en vaut la chandelle, en fait.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ayana, qui a un prénom hyper original, très atypique, ça vient d'où?
Alors, c'est un prénom balinais.
Okay.
Parce qu'en fait, avec ma femme, on s'est mariés à Bali.
Okay.
Et c'est un bébé qui a été conçu finalement le soir de notre mariage.
Ah, c'est magnifique.
Ouais. Donc en rentrant, on a appris qu'elle était enceinte. Et finalement, l'endroit où on s'est mariés s'appelait Ayana Resort Hotel, qui est pour nous le plus bel hôtel au monde.
Okay.
Donc finalement, aujourd'hui, à chaque fois que je l'appelle, ça me renvoie à cette image, tu vois, de cet endroit paradisiaque. Et puis... Franchement, quand tu regardes dans ses yeux, tu as l'impression de voir l'océan Indien.
C'est magnifique. Ouais, et puis elle est sublime. Elle est sublime.
C'est
une très belle histoire. Très belle histoire et très originale. Ouais. Trop bien. Bah, ça commence bien, dis donc. est-ce qu'on peut avoir ta version du M de Muller?
Alors, le M, je pense que c'est mon moteur de vie. Ça va être maman.
Ok.
On en parlera un peu plus, de manière peut-être un peu plus détaillée plus tard.
Ouais,
mais voilà, j'ai une relation très particulière avec ma maman.
Ouais.
Que je n'ai jamais rencontré.
Ouais, on va y
venir. Et c'est justement ce qui me donne cette flamme. Au départ, qui était un peu utilisée à mauvais escient, et qui, depuis peu, et peut-être aussi depuis la naissance de ma fille, mais même un peu au-delà de ça, je pense que depuis l'acting aussi, me permet de l'utiliser à bon escient, en fait, cette force-là.
Okay.
Parce que j'avais plus une vengeance sur la vie qui n'était pas un bon sentiment et qui, aujourd'hui, est quelque chose qui m'apaise.
Ah, c'est super. Et tu me fais une passe décisive pour le deuxième chapitre de haine, de naissance.
Tout à fait.
C'est magnifique. Tiens, Et on est déjà une belle équipe, j'adore. Le haine de naissance, Aurélien, qui est finalement un sujet, on ne va pas se mentir, qui est un petit peu lourd. On commence ce podcast-là par un sujet lourd, mais ça te représente, c'est ton histoire.
Tout à fait.
Donc il faut qu'on passe par là. Voilà.
Ouais.
Ta naissance, les souvenirs de ta naissance et les souvenirs d'enfance commencent par... finalement un malheur finalement, c'est-à-dire que tu viens au monde et puis ta maman décède lors de l'accouchement de toi et de ton frère jumeau.
Tout à fait, donc dû à une erreur chirurgicale. Donc en plus, c'est-à-dire que c'est pas un décès naturel, enfin, tu vois, c'est pas on sait qu'il y a il y a des personnes responsables derrière ça.
Très dur.
Et en fait, quand je dis toujours, je suis né dans un malheur. Mais depuis, je vis un bonheur, en fait. Et c'est vrai, parce que j'ai eu la chance, dans ce malheur, d'avoir déjà deux grandes sœurs, d'être né avec un frère jumeau. On est né grand prématuré. Donc, je pense aussi que cette force vient de là, parce qu'on n'était pas non plus de nous sortis d'affaires. Tu vois, j'ai fait quand même un mois de couveuse après ma naissance. Donc, j'étais déjà attaché à cette vie-là, tu vois, en me disant, je ne veux pas la perdre et je vais en faire quelque chose. Et au-delà de ça, j'ai eu un père extraordinaire, charismatique, enfin, et qui m'a tellement appris, en fait, de la résilience, du courage, du travail. Et j'ai eu deux grands-mères qui, pour moi, sont des reines, en fait.
Bien sûr.
Et je suis ce que je suis grâce à elles, et j'essaie de le transmettre aussi à ma fille aujourd'hui.
Ce que tu dis, c'est que malgré finalement ce malheur, tu as eu la chance dans ce malheur d'être extrêmement bien encadré, bien entouré, et d'avoir beaucoup d'amour pour compenser à ça, à ce manque.
C'est que moi, en fait, la seule crainte que j'avais étant petit, c'était de perdre mes grands-mères. Parce que surtout quand tu es petit, tu vois pas l'âge. Enfin, t'as l'impression qu'elles sont plus vieilles qu'elles ne le sont. Bon, elles étaient déjà très âgées, mais finalement, j'ai perdu l'une de mes grand-mères l'année dernière, et mon autre grand-mère est toujours vivante, tu vois. Donc, mais jusqu'à mes 18 ans, j'avais cette crainte de les perdre, tu vois, parce que c'était un peu nos piliers à nous.
Bien sûr.
Mais en dehors de ça, tu sais qu'il n'y aura pas de divorce qu'il peut y avoir entre deux parents.
Ouais.
Tu sais qu'il n'y aura pas de dispute à la maison. Donc, on n'a pas connu, nous, cette enfance-là, tu vois, où tu peux y avoir des disputes avec les parents. C'était que de l'amour, en fait.
Justement, est-ce que tu as un souvenir ou des souvenirs un peu marquants, finalement, de cette période de l'enfance ? Parce que je sais que, voilà, on est né dans le même coin, hein, dans l'Est de la France.
Tout à fait,
tu vis quand même un petit drame au départ de ta vie. Faut le savoir, quand même, c'est que dans l'Est, on n'est pas très, très branché spiritualité,
non,
et psychologie, hein, c'est vraiment quand même, malgré tout, faut le dire, élevé à la dure.
L'Est
de la France, les hivers qui sont froids, donc ils le sont moins maintenant, mais
puis on sort quand même, surtout nos grands-parents et nos parents sortent quand même d'une seconde guerre mondiale.
Exactement.
Tu vois, mon père est élevé par sa mère qui, elle, a vraiment vécu la guerre, donc c'est élevé en mode survie.
Ouais, c'est ça.
Le spirituel, il existe même pas, en fait, il est même pas en second plan. C'est élevé à la dure, clairement, c'est efficace, il y a très peu de contact physique, en plus très pudique, tu vois, on ne sait pas se dire je t'aime, je crois que la première fois que j'ai dit, c'est quand j'ai perdu ma tante à mon père, parce que tu réalises que les gens, en fait, peuvent partir d'un instant à l'autre, et donc tu t'envoies un message à ton père en disant je ne te l'ai jamais dit, mais je te le dis. Parce qu'au cas où tu le sais pas, tu vois. Alors
on attend des moments comme ça, un peu
bizarre.
Dramatiques pour se dévoiler nos sentiments, ce qui est chelou, mais en même temps, voilà, c'est de là où on vient, c'est là où on est né, c'est ce qui nous représente. Donc malgré le fait qu'au niveau sentimental, il y a ce côté pudique et ce côté on se dit pas les choses, tu vis quand même, tu grandis dans l'amour, t'es bien encadré. T'as un souvenir comme ça à nous partager d'un truc qui t'a un peu marqué ?
C'est une bonne question. En fait, moi j'ai le souvenir de beaucoup. Je suis très olfactif. C'est à chaque fois que je rentrais du foot, je rentrais et en fait ma grand-mère maternelle habitait à une heure de chez moi. Moi j'habitais à la ferme, en fait, parce que mon père est paysan. En plus, une ferme très isolée dans un village de 300 habitants et nous on était en plus à 3 km de ce village. Donc t'imagines, tu vois, vraiment solitaire, genre des loups.
Le fin fond de l'Est de la France.
Ah ouais, non, tu peux pas plus perdu. Mais, et en fait, ma grand-mère maternelle, elle oscillait entre chez elle et chez nous parce qu'évidemment, il fallait quand même. qu'elle vienne supporter justement l'éducation avec ma grand-mère paternelle qui, elle, était sur place et qui continue à faire tourner l'exploitation agricole. Et en fait, elle ne nous disait pas quand elle venait. Donc j'avais toujours ces souvenirs de quand je rentrais du foot ou quand je rentrais de l'école, j'arrivais en bas parce qu'on vivait sur deux étages. Et en montant l'escalier, tu avais l'odeur soit des crêpes, soit des beignets. C'est et tu savais délire. Qu'elle était en haut, en fait. Tu vois, donc en fait, j'avais déjà les larmes aux yeux avant même de l'avoir vue parce que je savais qu'elle m'attendait en haut avec des crêpes ou avec des gaufres. Tu vois, genre, là, je suis déjà ému en rien
que d'y penser. Mais c'est un délire parce que j'ai vécu la même chose avec ma grand-mère qui était d'Italie et qui, quand elle venait, nous faisait des beignets maison. C'est fou ce que tu me racontes parce que j'ai vécu la même chose. Quand ma grand-mère, elle venait, je la voyais, si je la voyais une fois par an, c'était beau. Et elle venait, elle nous faisait ces beignets-là. Et quand je rentrais de l'école, j'avais la même sensation, le même délire. Et je voyais ma grand-mère et ma mère qui préparaient les beignets pour le goûter de 16 heures. Quoi.
Et donc, là, c'est en fait, t'es rincé ton match de foot. Et en fait, là, tu commences à monter les marches 4x4 et t'as qu'une envie, c'est de lui sauter au cou. Quoi. Non, c'était... Je te dis, c'est... Après, évidemment, t'as le contre-coup quand elle doit repartir, 15 jours ou 3 semaines après, et que tu rentres de l'école et tu... T'as plus d'odeur, quoi. C'est vide, c'est froid, tu te sens seul. Il y a forcément des très très beaux souvenirs, il y a forcément des souvenirs un peu plus douloureux. Mais bien sûr. Mais l'un dans l'autre, franchement, je peux pas me plaindre en réalité.
Ouais, et puis tu grandis directement en contact avec la nature.
Ouais.
Ton papa étant agriculteur, t'es tout de suite au contact de la terre, au contact de tout ce qui représente, on va dire, aussi ce côté agricole et nature.
Ouais.
Tu grandis aussi, t'as des souvenirs avec ton frère, tes sœurs, etc. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que tu as des souvenirs de cette fratrie?
Alors en fait, on est quatre et on est très proches. Parce que Cyrielle, qui est la plus âgée, a que 4 ans de plus que moi.
Okay.
Caroline, 2 ans de plus que moi. Et évidemment, mon frère jumeau et moi. Mm-hmm. Donc on avait créé en fait cette espèce de meute, tu vois. On se disait, bon, maintenant on doit se serrer les coudes parce que la vie ne nous a pas fait de cadeaux. Mm-hmm. Donc on a plutôt intérêt à s'unir, parce que comme on dit, l'union fait la force.
Ouais.
Et j'ai été en fait, j'ai pris ma grande sœur Cyrielle comme modèle.
Okay.
Tout ce que me disait, c'était pour moi parole d'évangile en fait. Mmh. C'était, je lui demandais qu'est-ce qu'il faut faire pour être l'élite de la société. Elle m'a dit, il faut être ingénieur.
Okay.
Et si elle m'avait dit, il faut être avocat, j'aurais fait des études de droit, tu vois.
D'accord.
Donc j'ai fait des études d'ingénieur.
Hyper intéressant. Donc déjà, elle te drive dès le départ par rapport au choix que tu vas faire plus tard.
Et je vois comment elle travaille, comment elle se bûche, tu vois, quand elle a fait son bac S. Donc moi, j'ai forcément fait un bac S, mais quand j'ai vu qu'elle se butait, je me suis dit, waouh, ça va être dur, mais tu vois, je savais ce qui m'attendait en fait.
Okay.
Et puis, c'est devenu un modèle, un exemple. Caroline était un peu plus rebelle.
Okay.
Mais tu vois, il y avait des couvertures quand il fallait qu'elle sorte le soir parce qu'elle voulait aller voir ses petits copains, etc. Donc il fallait qu'elle sorte en douce, tu vois, parce qu'il y avait plein de sorties différentes dans la maison.
Ouais.
Et mon frère, ça a été. C'est une histoire d'amour infinie parce que c'est ton meilleur ami, c'est ton allié, c'est ça peut être ton ennemi un jour, mais tu vois. C'est
le
ton...
côté jumeau, quoi. Chien et chat, mais inséparable.
Tu te mets sur la figure et tu. Et le lendemain, tu sais qu'il se réveille à côté de toi, quoi, tu vois. Donc en fait, on a tout partagé ensemble.
Mais c'est génial ce que tu dis, parce que ben pour le coup, malheureusement, ça n'arrive pas dans toutes les familles. Mmh. Suite à un drame comme ça, il peut y avoir une vraie explosion familiale.
Ouais.
Et vous avez eu cette force de tenir avec toujours ton papa comme chef d'orchestre.
Ouais, complètement.
Okay.
Mon père, en fait, il a tellement de charisme. C'est vraiment, il a une gueule de... Pour moi, j'ai toujours dit, il a une gueule d'acteur.
Okay.
C'est même qu'il détonne, en fait. Tu vois, quand je dis mon père, il est paysan et qu'il venait nous chercher à l'école, au collège ou au lycée. Et on se dit, mais il n'est pas paysan, lui. Il est ministre. Tu vois, il a
ce charisme.
Ah ouais, il est vraiment une gueule. On l'appelle Kevin Costner à l'école. Tu vois, je me rappelle, on l'appelait Clint Eastwood. Enfin, tu vois, des vraies gueules. Quoi. Et encore aujourd'hui, c'est un super bel homme. Et en fait, je pense que c'est ce charisme qui m'a fait ne pas prendre une voie dégueulasse, en fait. Tu vois, une voie... que ce soit en perdition. Après, l'environnement scolaire aussi joue beaucoup, ça c'est vrai.
Bien sûr.
Mais je te garantis que quand tu vois que ton père, qui est paysan, t'aide pour des devoirs de maths jusqu'à 3 heures du matin, parce que lui, il a fait aussi un bac C ou D à l'époque, je ne sais plus, tu vois, l'équivalent du bac S, parce qu'en fait, à l'origine, il voulait être vétérinaire.
Okay.
Mais il a vécu une vie aussi très, très douloureuse où quand il est en école de vétérinaire, son père décède. Enfin, il ne décède pas, mais il prend un handicap très lourd et il va décéder peu de temps après. Et sa mère lui dit, tu viens reprendre la ferme.
Okay.
Alors qu'il ne voulait plus en entendre parler. Tu vois.
Ah,
il a dû arrêter ses études de vétérinaire pour reprendre une activité qui ne lui plaisait pas. Mais il l'a fait par amour pour sa mère, en fait. Et il a appris à aimer, ouais, le monde agricole sur le tard, quoi. Mais il détonne dans ce monde-là, quoi, parce qu'il n'a fait aucune étude.
Mais c'est ça qui est magnifique aussi. Ouais. Et c'est ce qui vous a permis, je pense, de vous ouvrir complètement l'esprit par rapport aux choix que vous allez faire plus tard au niveau professionnel. Je pense à tes sœurs, ton frère ou même toi.
Complètement. Il n'était pas du tout directif. Il faut faire des études. Il faut... Enfin, non, il n'y a pas de « il faut que tu sois heureux ». Ça passe par des sacrifices. J'en ai fait un. Si tu peux, ne fais pas le même que le mien.
Magnifique comme message.
Complètement. Il m'a dit, ne fais pas, entre guillemets, la même erreur que moi. Parce que lui, il considérait que c'était une erreur de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait. Et c'est vrai. Parce qu'il a, encore une fois, il a appris son métier sur le tard. Mais lui, c'était vétérinaire. C'était, tu vois, aider les animaux.
Ouais.
Et c'est vrai que dans l'agriculture, il peut y avoir des choses qui ne lui plaisent pas du tout. Quoi, tu vois, et lui, il est très attaché à ses bêtes. Il les bichonne, tu vois. Parce qu'en fait, il agit comme un vétérinaire.
C'est génial.
Et quand le vétérinaire vient pour... que ce soit faire une intervention ou mettre une vache à bas, tu vois, pour accoucher, il connaît déjà tout sur tout, quoi. Tu vois, il peut limite prendre les gants et lui dire laisse-moi faire, quoi. Magnifique. Parce qu'il est passionné par tout ça.
Ah, c'est trop beau.
Ouais.
Écoute, belle histoire, tu vois, finalement, sur ces premières étapes de vie, y a des belles choses qui ressortent, magnifiques, avec une éducation, un cadre, et puis une envie pour toi déjà d'exprimer... tes passions et la liberté qu'on te donne de dire, voilà, fais les bons choix. Même si la grande sœur te dit, allez, ingénieur, c'est la voie à suivre. On va y revenir. On va passer au parcours d'abord le chapitre S, sur tes sources d'inspiration. Alors, voilà, on en a longuement parlé. Je pense que, si je ne veux pas parler à ta place, mais je pense que ton papa aussi a été un exemple de fou. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ça, sur le fait qu'il t'ait inspiré à faire tel ou tel choix?
Mon père, c'est un exemple de travail. Il m'a appris que quand tu commences un travail, tu le termines. Il n'y a pas de « je mets un chrono et dans deux heures, j'arrête ». C'est si les champs ne sont pas labourés, si la récolte n'est pas finie, si la moisson n'est pas finie, on reste dans les champs jusqu'à 3-4 heures du mat, jusqu'à ce que la rosée du matin vienne justement empêcher de continuer à moissonner, tu vois, et attendre que les récoltes sèchent pour pouvoir continuer le lendemain à 10 heures, en fait. Mais moi, j'ai fait... de 14, on va dire même de 13 à 18-20 ans, j'étais dans les champs, juillet, août, je partais pas en vacances parce qu'il fallait que j'aide mon père sur l'exploitation et mon oncle aussi à l'époque.
Il te donne les valeurs du travail et le goût de l'effort.
Complètement, complètement. Et il m'a dit un jour, l'effort fait l'effort. L'effort font l'effort, tu vois ce que je veux dire?
Très beau.
Donc, et moi, en fait, la phrase-là, elle a résonné tout de suite. C'est comme... Enfin, il avait ces petites phrases à lui. C'était l'homme fait et en faisant, il se fait.
Mm-hmm.
C'est tellement vrai.
Bien sûr.
Il te
partage ça aussi à un âge critique. Ouais. L'adolescence, là où tu te formes, où tu te forges, tu essaies de savoir qui tu es, ce que tu veux. Donc, il implante ces petites graines là en toi qui te donnent une
au début, une force, tu réalises pas.
Caractère,
tu réalises pas quand tu es en train de changer. Mais en fait, ça te revient plus tard quand tu es en école d'ingénieur ou après, on en parlera plus tard. Mais dans beaucoup d'épisodes de ma vie, où tu dis waouh, tout vient de là, en fait.
Ouais, bien sûr, c'est
les fondations, c'est ma base,
la source, la source,
mon
tu
pilier
vois.
C'est clairement, c'est pour ça que je te dis, mon père, c'est mon pilier.
Ouais, c'est magnifique, c'est
l'un de mes piliers, mais en tout cas
bien sûr. Est-ce que si on avance un petit peu, même dans le cadre des choix professionnels que tu as pu faire après, il y a aussi une autre source d'inspiration, ou est-ce que tu as eu un mentor, est-ce que quelqu'un qui t'a dit putain, tu sais, moi, ça nous arrive beaucoup dans le sport. Je vais faire comme lui.
Ouais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui t'a marqué dans ton parcours ou pas?
À l'origine, j'étais parti pour être footballeur professionnel. C'était un rêve de gamin. Après, j'ai vite compris que j'ai grandi trop vite et j'avais une masse musculaire pas assez importante pour concourir à ce niveau-là.
Gros paradoxe par rapport à maintenant.
Ouais, j'ai pris une grosse vengeance, une grosse revanche à ce niveau-là.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en plus, dans l'Est, il y avait beaucoup de communautés noires, en fait, d'Afrique subsaharienne, qui, en fait, trafiquaient des cartes d'identité. Donc, en fait, moi, j'étais...
Je l'ai vécu, hein, centre de formation aussi. Hein. Je l'ai vécu aussi, tu vois.
Donc, en fait, tu te rends compte que tu es face à des gens qui ont déjà la barbe, la moustache, toi, t'as 13 piges, t'as pas un seul duvet. Tu te dis, c'est bizarre quand même. mais voilà, donc j'avais forcément des modèles dans le foot, tu vois, en plus 98, j'ai 9 ans,
évidemment,
t'as des étoiles dans les yeux quand tu vois ça, j'ai encore des frissons aujourd'hui, tu vois,
magnifique.
C'est Zidane, moi j'avais Djorkaeff, je sais pas pourquoi,
ouais,
tu vois, un mec qui est dans l'ombre mais qui fait le jeu,
ouais.
Zidane évidemment, un maestro, Et pour moi, c'était des exemples. Après, j'ai beaucoup joué au tennis aussi avec mon frère. Ouais. Donc Federer, pour moi, ça reste une icône.
Exceptionnel.
Donc c'est beaucoup dans le sport.
Oui, c'est que ça.
Parce que c'est ce qui nous rattache étant petit. On est très, très porté sur le côté sportif. Et on se rattache toujours forcément à un ou plusieurs modèles. J'ai jamais été fan, en réalité. J'ai jamais eu cette... tu vois, à mettre des posters partout dans ma chambre.
Ouais, ouais.
Tu vois, à l'époque, j'écoutais du rap, donc j'aimais en fait juste les styles de... Donc tu copies en fait, tu vois.
Ouais, voilà, ça te donne des goûts et des couleurs, tu vois, ça te forge un petit peu sur les choses que t'aimes et que t'aimes moins.
Ouais.
Mais le côté sportif aussi, peut-être qu'il contrebalance sur les études, tu vois.
Ouais.
Le côté scientifique, très cérébral.
Ouais.
Le côté terre, agricole, donc manuel.
Ouais.
Puis t'as le côté sportif qui te fait peut-être aussi un peu rêver et qui te donne envie, non ?
Ouais, bah, ça te permet de te dépenser en fait et de... Comme on dit, d'arrêter de penser.
Ouais.
Donc,
ouais, c'est,
c'est ça.
C'est clair.
Et c'est vrai que ça te fait sortir de ton monde, en fait, de ton trou, entre guillemets. J'aime pas le terme parce que franchement, c'est une bénédiction là où j'ai grandi.
Évidemment.
Après, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait waouh, il est où le repos visuel, tu vois. Parce que moi, quand je sortais de la ferme, j'avais aucun bâtiment sur 3 km à la ronde. Quoi,
ah,
tu
c'est
vois.
Clair, c'est clair.
Donc,
justement, on va parler de ça dans le P de parcours. Alors, mon gars, parce que tu as quand même un parcours de ouf.
Ouais. Bah, pas de ouf, de ouf, si, mais...
Si, tu as un parcours...
Assez atypique, on va dire.
Tu as un parcours très atypique,
ouais.
Et donc on a dû faire un petit peu des choix pour condenser tout ça.
Ouais.
Évidemment, ben, après Bac S, etc., tu suis les conseils de la grande sœur et tu te lances en école d'ingénieur.
Mmh.
Voilà, donc pour toi... Tu te dis, allez, je vais être ingénieur, je vais bien gagner ma vie, je vais trouver un job, etc. etc.
Oui.
J'essaie d'aller un peu vite. Hein. Si tu me dis si je saute des étapes un peu trop rapidement, mais voilà, pour l'instant, c'est ancré sur ce côté des études que ta sœur a suivi et tu veux suivre un peu ce modèle-là aussi. Et puis, on te dit, t'es quand même beau gosse, toi.
Après, je vais même revenir en arrière.
Ouais,
en fait,
vas-y.
Mon histoire, elle est faite que de rencontres.
Vas-y.
Parce que je commence. Mon école d'ingénieur à Nancy.
Ouais.
Parce que je suis pris sur concours et mon père me dit, tiens, fais ce concours, ça va t'entraîner pour le bac. Parce qu'il savait que j'étais très dernière minute, tu vois. Et le concours, il était genre 2 mois avant le bac. Je me suis dit, bon, bah, c'est une bonne chose, en fait. Et donc, je suis pris sur concours et j'intègre cette école à Nancy qui, en fait, permettait de partir 1 an à l'étranger.
D'accord.
Une école Erasmus.
Okay.
Donc, moi, c'était cool parce que je faisais 2 ans de prépa dans cette école. Une année de césure, finalement, en Erasmus, tu choisissais ton pays.
Ouais.
Et tu revenais pour 2 ans pour te spécialiser dans
T'as quel âge, là, 19 ans, 20 ans ?
Je rentre en école d'ingénieur, j'ai déjà 1 an d'avance.
D'accord.
Donc, rentre à 16 ans, je viens d'avoir 17 ans.
Waouh ! Ah oui, d'accord.
Ouais, okay. J'ai eu mon
très
diplôme
précoce.
À 21 ans, ouais.
Ok.
Pour la petite histoire, pour revenir à ma sœur, elle a sauté le CM1.
Ok.
Et moi, j'ai sauté le CP. Donc, tu vois, pour te dire à quel point j'étais... C'était mon modèle. Je me dis, si elle a sauté une classe, il faut que je saute une classe, tu vois.
C'est
donc, j'étais,
ouf. C'est
donc
ouf.
C'était... J'étais...
T'étais en avance,
ouais. J'étais vraiment élevé par des personnes juste extraordinaires.
Ok.
Et bref, donc je fais mes 2 années de prépa. Je pars en Erasmus. La seule destination qui te permet de partir sans être dans l'élite, en fait, de la promo, c'était l'Écosse. Donc, je pars en Écosse, à Glasgow. Je fais 1 an extraordinaire parce que ça te permet de t'émanciper et de devenir un homme, en réalité.
Bien sûr.
J'ai vraiment vécu la transition adolescence-homme à ce moment-là parce que tu arrives dans un pays où même la langue est compliquée à comprendre. Parce que c'est,
même leur anglais, il est chaud.
On parle d'anglais, mais c'est de l'anglais paysan. Hein.
Ouais, c'est comme si...
T'arrivais à Lille pour apprendre le français. Hein.
Oh ouais, non, c'est dur.
Enfin, et encore Lille, je suis gentil, mais t'arrives plus à Tourcoing. Quoi,
on
tu vois.
Ne manque pas de respect aux Lillois.
Non, pas du tout.
pas du tout.
Même à Marseille, ou même, tu vois, je peux te citer.
Évidemment.
Ou même chez nous, en réalité, parce qu'il y a aussi du patois dans l'Est.
Oh là, dans l'Est, c'est chaud.
Tu vois,
ouais, c'est sûr.
À un moment donné, quand t'arrives, c'est très profond
c'est
et frontalier à l'Allemagne.
C'est ça. Donc tu pars en Écosse.
Il nous faut les sous-titres, même pour nous. Quoi.
Compliqué, ouais, c'est clair, t'as raison. Quand tu commences à croiser les anciens sur le banc en face de l'église, tu kiffes que dalle.
Ouais, alors.
Donc tu pars là-bas.
Donc je pars en Écosse,
ouais.
Je rencontre en fait mon ex là-bas,
okay.
Qui a 4 ans de plus et qui en fait me dit si tu veux trouver du boulot, viens à Paris. Donc en fait c'est elle qui m'emmène à Paris parce que moi je comptais faire ma carrière entre guillemets dans l'Est de la France d'ingénieur, tu vois.
Ouais, ouais, bien sûr.
Donc elle me dit si tu veux un stage de fin d'études, la plateforme c'est Paris. Donc elle s'installe 1 an avant à Paris, je la rejoins. Un an après, parce qu'elle avait déjà fini ses études.
Ouais.
Mais moi, comme j'avais 1 an d'avance, ça se superposait presque.
Okay.
Et, euh, Et à ce moment-là, en fait, je commence mon stage de fin d'études en février 2011, je crois. J'arrive le dimanche soir à Paris et je commence le lundi matin à Rueil-Malmaison. En fait, c'est en dehors de Paris, tu vois. Donc, je dois prendre le RER A puisque je vis dans le 17e. Donc, je dois descendre sur Opéra et d'Opéra, je dois partir à Paris.
Alors, attends, tu sors de la ferme.
Ouais.
Tu fais un an à Glasgow et t'arrives dans une ville aussi dingue que Paris.
C'est ça.
La veille et le lendemain, il faut que tu prennes le RER.
C'est ça.
Mais t'as pris une claque de ouf. Ouais. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est une autre planète. Ouais.
Non, ça a été très vite. Et donc, le dimanche soir, je commence à regarder comment je dois aller tu vois, à Rueil-Malmaison. Donc, je me lève très tôt. Et en fait, il arrive ce qui arrive. Forcément, je me perds à Opéra, tu vois.
Ouais, parce que la base.
Ouais, pour un médecin, t'arrives à Paris.
Même encore maintenant, je me perds à Opéra, je te le dis.
Tu vois, et en fait, j'arrive à Opéra et il y a un mec qui m'arrête dans la rue.
OK.
Le mec, il avait déjà 65, 70 ans. Hein, et il me dit, t'es mannequin, toi.
Sans déconner.
Ouais, premier matin à Paris.
Bah là, tu vois, tu me l'apprends cette anecdote. Ouais, c'est génial que je l'apprenne.
C'est pour ça que je voulais te.
Bien joué, bien joué.
Il m'arrête, il me dit, toi, t'es mannequin. Je dis, non, moi, je suis ingénieur dans 6 mois. Donc, laisse-moi tranquille, en fait. Et, parce que pour moi, le mannequinat, c'était un autre monde. Ça n'existait pas.
Bien sûr.
J'en connaissais qu'un, moi, des mannequins à l'époque. C'était celui qui avait fait la pub pour Light Blue, mm-hmm. qui était très iconique, qui s'appelait David Gandhi. Et je pensais que pour moi, le mannequinat, tu le faisais en extra les week-ends pour compter, pour arrondir tes fins de mois.
C'est genre, c'était pas un vrai job.
Pas du tout.
OK.
Tu faisais ça parce que, voilà, tu pouvais gagner, je sais pas, 300-400 euros max, tu vois.
Ouais, et puis t'es à Paris, un mec un peu chelou au coin d'une rue.
Quand tu vois un mec de 70 ans qui dit t'es mannequin. Et je dis non, je suis ingénieur. Il me fait non, c'était pas une question en fait. T'es mannequin.
Waouh.
Ouais. Et attends, je dis, mais t'es agressif, tu vois. Et je dis, moi, je suis la tête dans le coltard. Et le mec, je dis, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Et en fait, il me dit, appelle-moi. Il me donne sa carte de visite. Moi, je pars faire mon stage de fin d'études. Et en fait, on a échangé. On s'est rencontrés pas mal de fois. Et il s'avère que c'était le directeur de la plus grosse agence de mannequins dans les années 80-90. Pour hommes, tu vois, dans le monde.
Et ce mec-là, tu le rencontres en te perdant à Opéra.
Complètement. Premier jour à Paris. Donc, tu vois, c'est fou. Et il me dit, t'as quelque chose à faire. Moi, j'ai un œil. Je ne suis pas là à te vendre à te mettre la poudre aux yeux. C'est vraiment, je vois vraiment que t'as quelque chose à faire. Et moi, j'ai un diplôme d'ingénieur que j'ai eu, tu vois, après 5 ans d'études. Je n'ai pas envie de devenir mannequin. Et me dire, mon diplôme ne sert à rien. Donc, j'ai quand même travaillé en tant que deux ans en tant qu'ingénieur d'affaires où, en fait, j'avais des énormes responsabilités parce que je devais embaucher des ingénieurs en CDI et les faire intervenir en renfort d'équipe sur des projets plus ou moins longs qui ne pouvaient pas être gérés en interne par des sociétés, tu vois.
D'accord, toujours à Paris, ça. Donc,
Paris,
tu bosses quand même pendant 2 ans dans une boîte en tant qu'ingénieur.
Exactement. Okay. Et j'avais une équipe à la fin d'une douzaine de personnes.
Ah oui, quand même.
Ouais. Et donc ce mec, il continue de me dire arrête, ça y est, maintenant c'est, tu vois, il y a autre chose qui t'attend.
Ah, donc pendant les 2 ans où tu taffes, il continue à te courir après.
Complètement.
Ah, c'est génial ça.
Et à un moment donné, il m'appelle un soir. Moi, j'avais des gros horaires, je bossais de 8h à 20h parce que je faisais passer des entretiens de 18h à 20h tous les soirs. Il fallait que j'alimente ma base de données et que si un client m'appelle, un chef de projet pour me dire j'ai un besoin ingénieur, il fallait, tu vois, que j'ai des personnes à proposer,
que tu puisses y répondre,
que j'en ai sous la main, quoi, tu vois. Et bref, il m'appelle un jour et il me dit, j'ai un casting pour toi. Il faut juste que tu sois en costume et t'as pas besoin de book. Donc, rends-toi juste à cet endroit avant 20h30, il t'attend. Et dis-moi ce que t'en penses. Mais ça peut être intéressant pour toi. Et moi, je me dis, évidemment, j'ai envie de vivre l'expérience, tu vois.
Bah, t'as rien à perdre.
Je suis en costume, je finis à 20h. Si je peux y être à 20h30, tant mieux. Si j'y suis trop tard, tant pis, tu vois.
Okay.
Je me mets aucune pression, j'arrive, je me rappellerai toujours ce casting, ça se passe super bien avec le mec, il me demande juste de me présenter, une petite scène d'acting, mais pas grand-chose, tu vois, mais il voulait juste voir surtout l'énergie.
T'avais jamais fait ça avant,
du
quoi.
Tout. Et finalement, il me rappelle une semaine après, il me dit, bon, bah, t'es dans la shortlist, donc déjà, il emploie des termes que je connais pas, tu vois.
Ouais. Alors, pour la shortlist, pour information, c'est, t'as passé la première étape, donc parmi tant de prétendants, t'es sélectionné sur les prétendants finaux.
Ouais, voilà. Okay. En gros, c'est en demi-finale ou en finale, tu vois, on est plus que 3 ou 4 sur 100 prétendants.
Alors que et toi, tu vas à l'arrache après le boulot, quoi.
Et t'as accès, en fait, au projet détaillé. Parce qu'avant, tu n'as pas accès à tous les détails.
Ah,
donc,
oui.
On te dit, c'est une campagne pour Armani, les lunettes. Donc, c'est shooté à Barcelone. On vous réserve une semaine à l'hôtel, mais vous allez shooter que 2 jours. Et finalement, le job, il te rémunère 10 000 euros dans ta poche, tu vois.
Mais là, tu tombes de ta chaise.
Non, moi, je suis au téléphone. En fait, je me dis, c'est 4 mois de mon salaire actuel, tu vois, à bosser 70 heures semaine. Genre, on va faire des photos sur une plage et je vais bronzer le reste du temps. Tu vois.
Oui, t'as encore le truc de. Mais c'est pas un job, ça, en
non.
fait.
Non.
C'est
et en fait, je prends pas le job. Je le prends pas, tu vois, mais il m'avait planté la graine. On était en juin 2013.
Alors pourquoi tu le prends pas ? Ça m'intéresse.
Après, il y a des. C'est comme aujourd'hui, même en tant que. Quand tu passes des casting acting, il y a des choses qui te dépassent. Qui...
Ouais.
Mais,
tu le sens pas à ce moment-là ? Tu te dis, c'est pas.
Non,
c'est
je
pas...
le prends pas dans le sens où je suis pas pris.
Ah, tu c'est le, pas, prends, je le pas. Prends pas, d'accord, pardon.
Non, non,
pardon,
je suis,
pardon,
pas, pardon. Je suis okay. pas sélectionné.
Ok, d'accord, autant pour
et,
moi.
Et même si j'aurais adoré, tu vois.
Ok.
Donc déjà, moi, j'ai déjà cet ascenseur émotionnel. Mais
oui, t'es confronté la première fois à. J'étais intéressant, on m'a presque
ouais.
eu, et puis finalement, non.
Ouais.
Pour la première fois, t'es confronté à l'ascenseur émotionnel de ton
complètement.
Taf.
Complètement. Okay. Que je vais vivre après, depuis 10 ans, quoi.
Ouais, c'est ça.
Qui est mon quotidien, en fait.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, c'est. Donc, en fait, l'été 2013, je pars en vrille, quoi, en fait.
Je me dis,
il y a autre chose. Il okay. y a vraiment autre chose qui m'attend. Et c'est vrai que l'ingénierie, ça me plaisait. Mais tu vois, de faire cette portion du périphérique tous les jours, et à un moment, tu commences à réaliser que tu commences à faire comme tout le monde, à klaxonner, tu te dis, toi, je suis déjà à ce niveau-là, alors que ça fait même pas 2 ans.
Aller loin à la ferme.
Ouais,
toi, c'est
complètement.
Fou.
Donc, ouais. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui m'attend et est-ce que finalement, je peux peut-être réaliser mes rêves autrement? Parce okay. que l'ingénierie, pour moi, ça devenait trop sérieux. Tu rencontres vraiment que des personnes de ton milieu, des ingénieurs, en fait. Donc, tu parles que de ça.
Ouais,
et moi, j'avais d'autres centres d'intérêt. J'avais envie de rencontrer énormément de monde. J'avais envie, tu vois, de... J'ai toujours été...
Curieux.
Ouais, très curieux, en fait. J'adore, en fait, rencontrer des gens.
Bah, justement, en parlant de rencontres, si on continue dans ton parcours,
ouais.
il y a une rencontre assez cruciale
ouais.
avec Mario, le
ouais.
photographe.
Ouais.
Tu peux nous en parler ? C'est ça qui est un peu le déclencheur de
complètement.
Tout ?
Complètement. Parce qu'en fait, donc je pose ma rupture conventionnelle en décembre 2013. Janvier 2014, je signe avec Frédéric et New Madison. Frédéric est devenu mon agent.
Okay.
Et il me dit, écoute, je vais t'envoyer tout de suite à New York parce qu'il ne se passe rien à Paris. Là, c'est la Fashion Week. Et je pense qu'il faut que tu ailles faire la Fashion Week à New York parce que tous les photographes sont là-bas, les grands designers sont là-bas. Aujourd'hui, c'est la Fashion Week femme à Paris. Donc, aucun intérêt de rester.
Donc, première expérience, tu signes avec l'agence, on t'envoie directement à
deux
New
semaines
York.
Après, deux semaines après, je suis à New York. Donc, déjà, je suis dans un film, en fait. Tu vois, c'était mon rêve d'aller à New York. Et là, tu me dis, je suis payé en plus pour aller à New York. On m'avance tout à. Enfin, c'est une avance. Tu penses qu'on te prend en charge, mais c'est une avance. Hein. Ça sera
ouais.
retenu sur tes prochains jobs.
Le...
Mais
ouais.
en tout cas, ça ne sort pas de ton portefeuille.
Oui, c'est
déjà.
Ça.
Et donc, déjà, c'est une opportunité. On te dit, tu vas rester 3 mois à New York. Ce qui est fou. Tu vois, en fait, ton quotidien, il est complètement. Ouais, il est complètement désarçonné, en fait. C'est, tu passes d'un ingénieur virangé et à mannequin où tu... Ouais, j'ai l'impression de rentrer dans un film à la Bruce Willis, tu vois.
Mais et ce qui est dingue, c'est que... Et ça, c'est le propre, finalement, de ton parcours, parce qu'on va revenir sur plein d'autres étapes, mais t'as même pas le temps de digérer ça.
Non.
À peine t'arrives, on te lance, on se met dans un avion,
c'est comme... C'est des rencontres. C'est,
ouais.
Si ça avait pas été Fred, peut-être que j'aurais pas eu cette carrière-là.
Okay.
Donc Fred m'emmène à New York. À New York, je fais quelque chose pour la Fashion Week. Et il s'avère que l'agent qui me représentait à New York, son voisin, c'était Mario, en fait. L'agent s'était collé justement à l'appartement de Mario Testino, qui était le plus grand photographe de mode de l'époque. Et encore une fois, c'est une rencontre, puisque mon agent lui renvoie un mail en disant « J'ai ce mec-là qui est un new face, qui est in town,
ouais.
donc qui est dans la ville. »
Le nouveau visage du mannequinat.
Ouais, et qui, est-ce que ça te dit de le rencontrer ? Et Mario me dira plus tard qu'il reçoit 1000 mails par jour de la sorte. Et il ne sait pas pourquoi il a cliqué sur le mien, quoi.
C'est fou. C'est fou, t'as cette étoile là qui
ouais,
te poursuit.
Donc c'est que ça, en fait. Et donc moi, je me rappelle, je suis à Wall Street, donc très, très south, en fait, de New York. Et j'ai un appel de mon agent qui me dit, cours vite, genre sur la, près de la 42e. Donc il va falloir que tu vois, je gravise.
Il y a quelques blocs à taper.
Ouais, ouais. Et il y a Mario qui veut te rencontrer. Et moi, je ne sais pas qui c'est Mario. Tu vois, j'ai pas Google, j'ai pas d'internet, il faut le wifi sur New York pour...
Ouais, et puis t'es tellement nouveau dans ce milieu que tu connais pas encore les noms, quoi.
Pas du tout, tu vois, et j'arrive en fait à l'appart, je toque, il y a deux assistants qui m'ouvrent, et je vois un immense penthouse, et il me dit, Mario Testino vous attend, il est dans le salon, et j'arrive, il y a 3 personnes sur un canapé en U, avec un laptop sur les genoux, et moi je suis arrivé au milieu comme ça, je dis, c'est qui Mario Testino ?
Tout transpirant, parce que t'as couru 14
ouais, en plus,
blocs.
Ouais, franchement. Et Mario, en fait, il lève la tête et je vois un mec qui devient blanc, tu vois. Et je dis, ah bah, ça doit être vous.
Mais c'est fantastique.
Et en fait, Mario, il dit, bon, vous deux, vous sortez. Et on discute tous les deux. Et il me dit, ce que tu viens de faire là, je l'ai jamais vécu. Parce que normalement, on vient, on me lèche, en fait. Tu vois, je suis quelqu'un qui a ce pouvoir, en fait, et en fait, je déteste qu'on fasse de la lèche. Parce que finalement, je connais pas la personne que j'ai en face de moi. Alors que là, j'ai vu tout de suite que toi, t'étais différent parce que tu t'en foutais, en fait, de qui de ce que je représentais, mais tu voulais parler à génial. Mario et pas à Testino, tu vois.
Mais c'est génial. C'est ouais. Que cette spontanéité et l'innocence que tu lui montres, c'est ce qui le touche.
Ouais. Parce que moi, j'arrive dans un business à 25 ans et pas à 17. Je sais que j'ai autre chose qui m'attend si ça marche pas. Tu vois, c'est pour moi, j'ai mon backup d'ingénieur.
Sans pression.
Pas du tout.
Tu gardes un peu
pour moi, c'est une aventure.
Ouais, tu gardes un peu cette image de l'époque, même si là, tu te rends compte qu'il y a des moyens et qu'il y a de l'argent à se faire et qu'il y a une carrière à construire. Le mannequinat, c'est side job. Ouais. Et puis, on verra bien. Quoi.
Complètement. Je ne vois même pas de carrière dans le mannequinat. Pour moi, ça va durer un an ou deux, tu vois, le temps de kiffer, d'avoir vu autre chose. Et c'est comme une soupape, tu vois, de repartir, en fait, dans l'ingénierie. Et en fait, lui, il me dit. J'ai une rencontre avec la production du Vie Magazine à Los Angeles. C'est pour ça que je pars là dans une heure. Donc, tu as bien fait d'arriver de venir me voir aujourd'hui parce que tu ne m'aurais pas vu demain. Et j'aimerais leur parler de toi, en fait. Parce que normalement, on ne met que des top modèles en couverture. Mais j'adorerais te mettre toi en new face parce qu'on va sortir 4 covers. Toi, tu seras sur une cover avec la plus grande mannequin femme. Donc, en fait, on va se dire, mais attends, c'est qui ce mec? Parce qu'on connaît tout le monde sauf lui, là.
Mais c'est génial.
Ouais. Et en fait, cette cover, ça m'a lancé, ça m'a envoyé dans une autre sphère immédiatement. Et pour la petite histoire, la cover sort justement le jour de mon anniversaire, le 16 juillet 2014, en fait.
Incroyable. Ouais. Mais c'est dingue, parce que dans ton histoire, depuis tout ce que tu me racontes, j'ai l'impression, quand tu utilises le mot rendez-vous, ouais. C'est des rendez-vous parce que tu fais des rencontres, c'est des alignements de planètes. T'es là au bon endroit, au bon moment.
Ouais.
Et prends un exemple, t'arrives une heure trop tard parce que tu décides de prendre le métro, tu le rates ouais. Et il se passe jamais rien. C'est
ou
assez fou.
Ou je mets mon avion plus tard, ou j'attends, tu vois, ou je capte pas le wifi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de paramètres qui font que.
Bah justement, est-ce que à cette époque-là, t'as la maturité, la spiritualité, t'en rendre compte déjà, rendre compte que finalement.
J'ai pas assez de recul.
T'as pas assez de recul non. À ce moment-là. Donc non. Tu vis les choses pleinement, comme ouais. Un jeune qui est là, tu te prends tout de plein fouet et tu te dis.
T'as l'impression que tout le monde vit le même scénario, sauf qu'une fois que tu commences à le raconter à tout le monde. Tu dis, ah ouais, non, en fait, je suis béni, en fait. J'ai une étoile. Il y a quelque chose qui se passe que je contrôle pas, mais j'ai de la chance. J'aime pas le terme, parce que pour moi, la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité, tu vois. Donc, j'ai beaucoup d'opportunités, mais on m'a préparé de par mon éducation, ma personnalité, tu vois, d'être très libre et de pas voir l'intérêt de l'autre, parce que finalement, j'étais très détaché de ce business, tu vois.
Bah c'est ce qui, je pense, a plu à Mario Testino, ouais. Parce que de par ton éducation et tout ce que tu viens de dire, il sent peut-être, ah bah, ce gars-là, il a du recul,
ouais.
Il n'a pas les dents qui rongent le parquet, comme on pourrait le dire.
Non.
Je vais en faire quelque chose, on va le modeler, c'est un diamant brut. Quoi.
Ouais, ouais. Même quand tu m'as mentionné le Vie Magazine, j'ai dit, je ne connais pas.
C'est
alors que c'était le plus grand magazine au monde, tu vois.
Mais il a dû kiffer, ça.
Ah ouais,
il a dû kiffer.
Il a dit, non, mais alors toi, je te kiffe déjà, tu vois.
Ah bah
il m'a dit, on va travailler ensemble. Je vais t'aider. Et en fait, c'est devenu ouais, une des personnes clés du début de ma carrière. Quoi.
Bah justement, ça t'amène à un autre moment clé où là, je pense comme pour tout mannequin qui idolâtre un peu ce métier et qui a envie d'aspirer à des grandes choses, tu signes avec Dolce.
Ouais.
Et ça, c'est quand même assez fou parce que, encore une fois, tout arrive très vite.
Bah, c'est fou parce que en fait, ça commence... très fort, donc il y a la signature de Dolce, elle se fait le 13 novembre 2015, date qui résonne de manière très négative pour les Français, puisque c'est quand même le soir des attentats du Bataclan, mais c'est
sûr.
Initialement, personnellement, l'anniversaire de ma maman, en fait. Donc je signe en fait le plus gros contrat de ma vie le jour de son anniversaire.
Attends, pause. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une date.
Ouais.
Hein, c'est-à-dire que...
Non, mais quand je te dis...
Non, mais c'est fou.
Ouais.
Tu signes, tu pars à New York le jour de ton anniversaire, tu signes avec Dolce le jour de l'anniversaire de ta maman.
Ouais.
Mais c'est quand même...
Et je signe avec Dolce & Gabbana, alors que le seul mannequin que je connaissais quand j'étais ingénieur, c'était le mannequin Dolce & Gabbana. Et en fait, on me dit, bah, tu vas remplacer ce mec-là. C'est un truc de fou, tu vois.
C'est complètement ouf. Ouais. Même quand tu m'en parles là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas la vidéo, t'as des paillettes encore dans les yeux.
Ouais.
C'est exceptionnel.
Parce que je me rappellerai toujours quand j'ai ce coup de fil de mon agent qui me dit, écoute, Domenico Dolce, donc il y a Dolce & Gabbana, donc moi j'étais très proche de Domenico Dolce. Stefano était un peu plus sur la femme. Et il m'a envoyé un mail, il me dit... qui te voudrait pour être représenté toute l'image Dolce & Gabbana homme, que ce soit le défilé, les campagnes vêtements, les cosmétiques, les parfums. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là depuis un an? Je contrôle rien et je suis comme Nemo, en fait. Tu vois, je suis un petit poisson bien dans sûr. L'eau et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive?
Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est finalement presque l'objectif majeur de chaque mannequin qui a envie de réussir.
Ah, mais c'est un grade, c'est Roland Garros. On te dit, t'as gagné Roland Garros. Et encore, au-delà de Roland Garros, franchement, ce contrat-là, en fait, c'est un contrat sans précédent, en réalité, parce qu'il n'y avait, pas de casting. C'était un choix. Donc, et j'ai signé avec Procter & Gamble, qui possédait les parfums de Dolce & Gabbana. Et Procter & Gamble, c'est une boîte à plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, ils avaient cette branche cosmétique, ils ne savaient pas trop comment la diriger. Ils n'avaient pas de notion d'argent, en fait, dans l'industrie de la mode et des cosmétiques. Et donc, en fait, je dis ça à mon agent, je lui dis, écoute, il n'y a que moi. Donc, on est en position, entre guillemets, de force. Tu peux un peu négocier ce que tu veux, puisque de toute façon, ils ne pourront pas dire non. Donc, mon agent, lui, qui est le plus grand négociateur que je connaisse de tous les temps.
Parce qu'il faut, hein, cette qualité qu'il faut pour être un excellent agent, hein, je pense.
Et on a atteint des sommes stratosphériques jusqu'à ce que Procter & Gamble décroche leur téléphone et dise « Là, ça fait un peu beaucoup quand même. » On ne sait pas trop sur quel biais danser, mais là, je pense que ça fait déjà beaucoup. Excellent. Et donc, ils ont divisé par deux et ça a été une somme, mais okay. On parle quand même de 7 chiffres. Quoi. Ah, donc, c'est stratosphérique. Et
t'as quel âge à ce moment-là? Qu'on rappelle un petit peu.
Juste. Bah, je suis en 2015, j'ai 26 ans.
26 ans, ça fait...
Un an que je suis dedans.
C'est
et pour moi, c'est game over, en fait. Pour moi, je suis déjà... parce que j'ai toujours voulu être acteur.
Ouais.
Le mannequinat, c'était pour moi une manière d'apprendre à me connaître. La confiance, l'échange avec la caméra.
Ouais.
Savoir ce que je provoque. Et en fait... pour justement me familiariser avec tout ça et après derrière en fait me mettre à nu en fait. J'avais toujours eu envie qu'on arrête de me voir comme un tableau et je l'ai vite ressenti même dès la première année, même dès la première rencontre. C'est un jugement, c'est très dégradant hein, le mannequinat, hein, parce qu'en une minute on te juge, même pas en une minute, hein, j'ai déjà fait des fois des castings pendant 3 heures où t'es dehors sous la pluie à faire la queue pour juste marcher devant Monsieur Armani. Et en fait, j'avais même pas fini mon retour. C'est-à-dire qu'il m'a dit « Ok, next ». Si j'ai marché, ça a duré même pas 10 secondes.
Ça, c'est assez dingue. Ça, je veux bien que tu me le gardes pour la partie incertitude. Ouais. On avance un petit peu. Parce que c'est moi, je pourrais t'écouter pendant des heures parler de ça, hein, c'est clair. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on avance un petit peu. Donc, on sort du cadre. Et ça, on en a discuté un petit peu avant le podcast. Je vais être transparent avec nos auditeurs. Sur le fait que j'avais envie de mettre en avant donc, certains points clés de ton parcours. Et tu m'as parlé de ta fille.
Oui.
Et tu m'as parlé du fait que, ben, en fait, on s'est dit, ben, tiens, on s'en fout si ça ne fait pas du tout partie du cadre professionnel. Au contraire, parce que je pense que ta fille, l'arrivée de ta fille et le fait que tu deviennes père a changé aussi tes perspectives au niveau professionnel. Tu peux nous parler de ça, de la magnifique Ayana?
Ma fille, elle est née le 9 janvier 2020 et comme tout le monde peut s'en rappeler, on a vécu le premier confinement en avril ou
mars,
11 mars je crois. Et en fait, ça a été une bénédiction sur tous les plans parce que en fait, elle est née et on m'a dit la terre va arrêter de tourner pour que tu puisses t'occuper d'elle. Tu vois?
Encore un rendez-vous.
Ouais. Parce qu'elle serait née 2 ans avant ou 2 ans après, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu là ces 4 dernières années avec elle. Et tu vois, d'apprendre à la connaître, d'apprendre à vivre vraiment le rôle de père à fond. Et c'est fou, tu dis, on a mis le jeu sur pause
pour que
tu puisses être à 100% présent avec ta fille.
Un apprentissage sur toi aussi.
Hein. Ouais, complètement.
C'est qui change un peu la perspective, j'imagine.
Et ça m'a fait très très bizarre. 2 ans après la naissance de ma fille, enfin même pas 2 ans, peut-être un an, un peu plus d'un an, quand j'ai entendu pour la première fois sous mon toit l'appeler maman. Ça m'a complètement retourné en fait. Ouais. Et j'ai dit waouh, c'est la première fois que j'entends ce mot, tu vois, sous mon toit.
Sous ton toit, c'est la première fois que tu vis le fait d'avoir une maman à tes côtés, hein, donc ta compagne, ta femme, et de l'entendre de la bouche de ta fille, ça t'a... Est-ce que ça t'a, malgré tout, retourné au point d'en être mal? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a rendu encore plus positif et encore plus ouvert à tout ce qui t'arrivait d'exceptionnel, finalement?
Non, je pense qu'au contraire, ça m'a... Là, je suis devenu beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Okay. Parce que j'avais encore une fois l'impression que c'était ma mère qui me l'avait envoyé. Mmh. Tu vois, parce qu'en plus, elle ressemble beaucoup à ma mère.
C'est pour ça que tu dis que ta maman est toujours présente. Hein.
Tout le temps. Elle est, pour moi, je sais qu'elle est là. On dit toujours, et ma grand-mère, tu vois, que j'ai perdue l'année dernière, on dit toujours, tu n'es plus là où tu étais, mais maintenant, tu es partout là où je suis. Ouais. Et c'est tellement vrai. Mmh. Je sais que j'ai eu des sorties de route, où, parce que je suis quelqu'un de très influençable quand même, et j'ai la chance d'être très très bien entouré, mais surtout d'avoir cette étoile sur ma tête qui voit une sortie de route et qui me dit attends, je vais te remettre sur le droit chemin. Là, là t'es en train de, tu vois, là t'as pas freiné sur ce virage, c'est moi qui vais mettre le frein à main parce que sinon tu fais une sortie de route.
Bien sûr.
Et je sais que c'est elle en fait, et ce petit ange du 9 janvier 2020, c'est elle.
Okay.
Je le sais.
C'est celle qui te permet de, comme tu dis, te remettre dans le droit chemin, de te restructurer, de garder un focus, d'avoir peut-être aussi plus de recul maintenant par rapport à ton métier. Et d'ailleurs,
et qui m'a donné envie encore plus de me lancer dans l'acting en fait. C'est là que je reprends l'acting parce qu'en fait j'avais fait un court métrage en 2014 qui en fait avait une production de long métrage parce qu'il avait gagné le prix du meilleur scénario l'année précédente, et je fais ce casting. Encore une fois, on m'appelle sur Facebook. On me lâche pas.
C'est dingue, hein, les gens te courent après.
Ouais, on m'appelle sur Facebook, on me harcèle. Sauf qu'à l'époque, Facebook, je prenais pas ça au sérieux. On m'appelait pour le Bachelor, on m'appelait, tu vois, pour des télé-réalités que je ne voulais pas faire.
Ouais.
Et cette personne-là me harcèle. Elle me dit, il faut que tu répondes, il faut que tu me... Et je lui dis, écoute, je te donne mon numéro de téléphone, mais si tu dis n'importe quoi, je te raccroche au nez, je te préviens. Mm-hmm. Et elle me fait le pitch au téléphone, et je dis, putain, mais c'est dingue ton film. Je viens passer le casting. Et en fait, je passe le casting alors que le casting est déjà fini.
Ah, donc genre, ils avaient choisi, quoi.
Ils avaient déjà choisi le premier rôle. La réelle, elle me fait passer quand même les tests. Et elle me dit, ta voix, c'est exactement ce que je recherche. Ton physique, parce que je devais jouer quand même un avatar, quelqu'un de très beau. Mm-hmm. Et t'es hyper intéressant à l'image. Donc finalement, on va avancer avec toi, quoi.
Fantastique. Ouais. Alors qu'elle avait déjà fait son choix.
C'était acté. Ils étaient partis pour tourner.
Comme quoi, dans ce milieu, il n'y a jamais rien qui est acquis.
Ouais. Non. Et donc, le film-là m'envoie à Cannes l'année suivante. Donc, juste avant de signer avec Dolce, je fais le Festival de Cannes, en fait. Ouais. Du Festival de Cannes, je rencontre Michelle Rodriguez, qui est une des actrices de Fast and Furious, par l'intermédiaire d'un producteur hollywoodien, en fait. Ils étaient très, très amis. Et Michelle, en fait, me dit... viens faire l'avant-première avec moi de Fast and Furious 7 à Los Angeles. Donc en fait, je suis plongé dans un monde où tout me dépasse en fait.
C'est ça.
Et c'est que des rencontres en fait. Tu vois, j'ai rien provoqué entre guillemets, j'ai rien forcé.
Ouais,
tout est venu de manière très naturelle.
Et ce qui t'évite, enfin, tu perds pied à un moment donné.
Ouais.
Perds pied, tu te laisses un peu
alors
embarquer.
Tu penses être préparé.
Ouais.
Et je me dis heureusement même que j'ai 25 ans, heureusement que j'ai ma famille qui est qui vient de la terre, heureusement que j'ai ma femme.
Ouais.
Qui me prévient en fait, même des fois à un moment donné t'écoutes plus.
Mais bien sûr.
Tu sais, tu penses non mais vous êtes pas dans mon monde, vous pouvez pas comprendre, tu vois. Mais si en fait.
Non, on refait un petit, tu vois, des allées et des retours.
Mais c'est pour en revenir justement au côté acting que je reprends justement en 2020.
Au moment où t'as ta fille.
Au moment où j'ai ma fille, je me dis là, fais vraiment, va au bout de tes rêves en fait.
Ok.
Le mannequinat c'était un rêve, t'y pensais même pas, mais l'acting que j'avais en tête depuis 2014. Tu vois, donc ça a été très vite, 2014-2020. Je me dis, là, il faut que je me lance, en fait.
C'est l'arrivée de ta fille qui te donne cette force et qui te dit, allez, maintenant, je perds plus de temps.
Ouais.
Je fonce sur ce que j'ai réellement envie de faire.
Ouais, okay. C'est un moteur, mais en fait, je dis toujours, il faut le vivre.
Oui, mais t'as raison. Je pense que
Parce que même moi, quand ma sœur, en fait, elle était maman avant moi, et je dis, elle disait, la relation que t'as avec ta fille, c'est inimaginable, c'est indescriptible. Et c'est vrai. Parce que depuis que j'ai ma fille, j'essaie de définir les mots, mais il n'y a pas de mots, en fait.
Non, t'as raison.
Les mots n'existent pas.
Ouais,
les mots, tu vois, ont une valeur qui ne peut pas atteindre l'émotion que tu ressens, en fait.
Oui, évidemment, évidemment. Magnifique.
Ouais.
Et je suis très content qu'on ait parlé de ça, parce que ça nous sort un peu du cadre aussi pro, et ça te tenait à cœur. Trop bien. On passe à la suite, le I de incertitude, qui est un chapitre que je trouve très intéressant, parce que je te le disais en off tout à l'heure. Évidemment, moi, je suis toujours admiratif des success stories, du moment où tu arrives. Mais je le suis encore plus des moments plus difficiles, des moments d'incertitude, des moments de doute, parce que c'est, je trouve, ce qui te forge le plus, ce qui te donne vraiment la possibilité d'apprendre sur toi et de savoir comment tu peux réagir face à des moments difficiles. On va commencer par un truc un peu plus léger. Je te prépare un questionnaire sur 40 secondes. Pour te stresser un peu, je vais te mettre un chronomètre dans les oreilles.
Okay.
Questionnaire, c'est un oui ou non. Voilà, c'est facile. Donc, tu réponds oui ou non. Tu as 40 secondes. Je t'ai préparé pas mal de questions. Est-ce que tu es prêt?
Vas-y, je suis prêt.
Tu veux inspirer un petit coup avant? Et c'est parti. Est-ce qu'il suffit d'être beau pour devenir un grand mannequin?
Non.
Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi?
Non.
Les acteurs qui deviennent des égéries de parfum, ça te saoule?
Oui.
Est-ce que tu aimerais devenir l'égérie d'une marque?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'un mannequin, ça a une date de péremption?
Non.
Est-ce qu'on peut se faire de vrais amis dans ce milieu?
Oui.
Est-ce que tu as déjà accepté des contrats à contre-cœur?
Non.
Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter ce métier?
Non.
Ça te plaît de faire de l'ombre à tous les mecs quand tu rentres dans une pièce?
Non.
T'es grand, du coup, t'es bon au basket?
Non.
Ok, t'as hésité quand même.
Ouais.
Est-ce que la gloire, la beauté, ça fait le bonheur?
Non, du tout.
Est-ce que tu penses pouvoir devenir un grand acteur?
Oui.
Magnifique. On a dépassé un peu, mais j'avais à cœur que tu finisses les dernières questions.
Merci.
Pas mal, tu t'es bien débrouillé. Ouais. Tu t'es très très bien débrouillé.
Il y a eu des hésitations, donc je pense que c'est pour ça que je les ai passées.
Ouais, bah écoute, on va revenir sur celle-là. Est-ce que les acteurs qui deviennent des égéries de parfum, ça te saoule? On en a déjà parlé ensemble dans des conversations entre poteaux, parce que je trouve qu'il y a eu un shift dans ce métier-là. Je pense, moi, à l'époque, les Naomi Campbell, Cindy Crawford, alors j'ai plus les noms des nanas, tu m'excuseras, qui étaient vraiment des icônes et qui représentaient ces marques, etc. Move forward 10, 15, 20 ans plus tard, et on ne voit que des comédiens. Je pense à Johnny Depp, je pense à pas mal de comédiens comme ça.
Robert Pattinson,
voilà,
Brad Pitt.
C'est ça, Brad Pitt, etc. Comment tu l'expliques, ça?
C'est un cycle. C'est un cycle. Et puis le business a énormément changé aussi, il a évolué. Il faut jouer maintenant avec les règles du jeu. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai la chance, de par mon physique et surtout ma taille, en fait, de pouvoir supporter les top modèles femmes, parce qu'elles sont très grandes.
Mmh.
Et donc, si tu fais moins d'un mètre 88, parce que généralement, le top modèle, il fait 1m78 et qu'elle met 15 cm de talon, comme je fais 1m93, elle fait ma taille, en fait.
Ok.
Donc, si tu vois, il suffit que tu sois un peu plus petit et tu deviens un peu...
tu passes à côté.
Difficile à assumer, en fait, à côté de cette femme-là, tu vois, qui est juste extraordinaire et qui a un charisme à tomber par terre. Donc, il faut pouvoir assumer ce genre de profil. Et après, il y a beaucoup, tu vois, tu m'as dit, est-ce qu'il faut être beau pour être un grand mannequin?
Mmh.
On se ressemble tous à un moment donné, en fait. Tu vois? Donc, c'est la personnalité, c'est l'éducation, c'est la curiosité, c'est la lumière dans le regard, en fait. Et surtout, c'est... le professionnalisme, d'avoir envie de bosser avec toi, en fait.
Mais c'est ça. Moi, je pense que si on revient un petit peu en arrière sur ta rencontre avec Mario, c'est ta personnalité qui a fait tout. Parce que, comme tu disais, il reçoit 1000 mails comme ça, des beaux gosses, il en reçoit tous les jours. Et c'est ta spontanéité,
c'est
ce qu'il a vu dans tes yeux qui a fait la différence.
C'est vrai. Et en fait, même des fois, encore aujourd'hui, des fois, on me tague sur des photos et c'est pas moi.
C'est génial. Non, c'est très drôle.
Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a des angles. Même moi, des fois, je me dis, j'ai pas fait cette campagne.
C'est très, très marrant, ça. Tu me disais aussi sur une question que je trouve assez intéressante, en tout cas. Il n'y a pas de date de péremption quand tu es mannequin?
Non. Après, c'est une hygiène de vie. Il y a forcément la génétique qui joue.
Ouais.
Tu vois, si tu commences un peu à perdre tes cheveux, etc. Mmh. Si tu commences à. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, mais il y a un marché pour tout le monde.
D'accord. Même chez les femmes, tu penses?
Non, chez les femmes, c'est un business beaucoup plus ingrat.
C'est ce que j'allais te dire.
Parce que moi, j'ai commencé à 25 ans et généralement, c'est l'âge à laquelle les femmes arrêtent de travailler.
C'est fou,
moins.
Ça, quand même.
Les femmes, si elles commencent pas à 15, 16, 17 ans, leur carrière va être très, très courte. À part encore des... Comme celles que tu viens de mentionner, tu vois, les Christie Turlington, les Cindy Crawford, Naomi Campbell, tu vois, qui aujourd'hui... continue encore de tourner, mais évidemment beaucoup moins.
Et puis qui ont réussi à transformer aussi leur carrière en businesswoman, entrepreneur, bien sûr.
Et c'est pour ça que, en fait, le mannequinat, il ne faut pas le voir comme un métier, mais comme une opportunité.
Okay.
On t'offre cette opportunité, à toi de la capitaliser. Tu rencontres énormément de gens, vois ce que tu peux créer derrière, en fait.
C'est hyper intéressant ce que tu dis.
Parce que si tu le vois comme une finalité, tu vas vite tomber de haut, en fait. Donc, dès que tu rentres, c'est comme un tennisman, en fait. Un tennisman, regarde Federer, regarde les mecs, ou Tony Parker, pour moi, qui est un exemple.
Bien sûr.
C'est, aujourd'hui, il va devenir l'un des plus grands businessmen au monde, alors qu'il a été l'un des plus grands basketteurs au monde. Et et combien de personnes ont fait banqueroute
bien sûr.
Dans les 5-10 ans après leur fin de carrière.
Tu penses à Allen Iverson, par exemple, dans le basket, pour ceux qui connaissent, qui était pareil, une icône du basket à son époque et qui aujourd'hui est un petit peu sur la paille parce qu'il était mal entouré, il a fait des mauvais choix.
Et ils ont gardé le même rythme de vie, sauf qu'il n'y a plus d'entrée d'argent. Quoi.
Exactement.
Alors que le mannequinat, tu sais que tu sais pas ce qui peut se passer demain, tu sais pas si tu peux avoir un accident du travail, si je me prends un bus, si, enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses qui entrent en compte. Donc capitalise ce que tu as. Et il faut que tu aies déjà cet esprit d'entrepreneur, d'investisseur, parce que la retraite, moi, j'y compte pas.
Bah, évidemment, évidemment, bien sûr.
Donc, c'est la retraite, c'est à moi de me la créer, en fait.
Évidemment.
Donc, il faut savoir s'entourer de personnes. Et si tu as un business qui t'intéresse, il faut que ce soit toi le moteur ou l'investisseur. Mais en tout cas, entoure-toi de bonnes personnes, des personnes qui sont meilleures que toi dans beaucoup, beaucoup de plans. Et puis après, c'est ta personnalité, ton éducation, ton professionnalisme et de répondre présent et qu'on puisse te faire confiance en fait.
Évidemment. Je pense que tu l'apprends aussi avec la maturité et puis au détour de ces phases un peu d'incertitude. J'ai envie de te parler d'une anecdote, c'est notre rencontre. Je trouve que ça rentre bien dans ce chapitre-là.
Probablement.
Parce que voilà, on se rencontre au détour de circonstances. Nos compagnes respectives sont amies, on fait un dîner. Je rentre, je vois ce grand gaillard, beau gosse, je me dis, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, tu te dis tout de suite, voilà. Et en fait, je trouve quelqu'un de hyper simple et hyper sympa et je sais qu'on clique tout de suite parce qu'on parle de sport, on parle de plein de trucs. Moi, je suis tout de suite très intéressé par ton milieu, c'est la première fois que je rencontre un mannequin professionnel comme toi, donc tout de suite, je suis très curieux. Et puis, tu me dis, là, je vais peut-être avoir besoin de tes services en coaching, en prépa, parce que à l'époque, tu tapes dedans dans la muscu, mais un truc de ouf, de par ta génétique et tes méthodes d'entraînement. Tu prends énormément de masse musculaire et tu es dans une période où tu n'arrives même plus à rentrer dans une veste pour un défilé.
Ouais.
Et c'est ça, je voulais parler de cette anecdote-là parce que je sais que ça te met en galère au niveau du boulot. Tu as des contrats qui te passent sous le nez, ton agent a du mal à te placer avec des marques, etc. Parce que tu me dis, je ne rentre plus dans mes vestes. Quoi. Et puis, on se met à parler un peu de ta programmation. Puis, je me rends vite compte qu'il y a tout et n'importe quoi dans ta programmation sportive. Et on commence à bosser ensemble. Et moi, j'essaye à mon niveau de t'aider à sécher, revenir un petit peu en shape pour bosser. C'est une période difficile pour toi, ça, où tu passes vraiment d'énormément de succès. Je sais qu'il y a aussi des contrats qui devaient se faire et qui ne se font pas, tu m'en parles.
Ouais.
Des grosses sommes d'argent qui te passent sous le nez, forcément. Tu te remets en question à ce moment-là ?
Ça a été peut-être la période la plus compliquée de ma carrière de mannequin parce que, en fait, le contrat que je signe avec Dolce & Gabbana n'est pas... honoré à 100%, c'est-à-dire que dans son entièreté, c'est-à-dire que je signe un contrat avec un montant juste
pharaonique
et en fait je me projette à acheter à faire des investissements immobiliers, etc. Sauf que on me paye un avenant au contrat justement pour me bloquer parce qu'il y avait Yves Saint Laurent qui voulait me booker pour leur parfum aussi, donc on arrive à jouer là-dessus.
Ils mettent le côté exclusif et ils disent
c'est ça. Okay. Pendant un an tu bosses, même si on te shoote pas, tu peux pas faire un autre parfum parce qu'on va te shooter, mais il nous faut un an. Parce que pour la petite histoire, en fait, c'est Martin Scorsese qui faisait le film du parfum.
Wow.
Et c'est Bruce Weber qui faisait la photo. Mais en fait, il y avait tellement de personnes à aligner en fait, dans leur agenda que c'était très compliqué, tu vois, de trouver en fait, finalement cette disponibilité. Et ces gens-là, en fait, ils shootent énormément. Tu vois, Martin Scorsese, il va shooter au moins 4 mois sur un film, 3-4 mois. Bruce Weber, il est dans le monde entier, donc... forcément, leur disponibilité est très, très loin dans l'agenda. Tu vois.
Ouais, d'où le fait que tu es toujours dépendant de tous ces paramètres-là.
Ouais.
Et pour le coup, à ce moment-là, ça ne s'aligne pas.
Pas du tout. Donc, en fait, on attend. Et mon agent, justement, heureusement que j'ai cette offre de Yves Saint Laurent pour la Nuit de l'Homme qui apparaît. Et mon agent dit, écoutez, signez-moi un avenant au contrat pour signer une exclusivité qui ne puisse pas faire la Nuit de l'Homme. Donc, vous allez payer le montant que serait prêt à offrir Yves Saint Laurent. Et à ce moment-là, il attendra parce que sinon il fera autre chose.
Okay.
Et donc ils arrivent justement à négocier ça. Donc heureusement, je touche beaucoup d'argent, ce qui me permet moi de me dire ok, j'ai déjà ça de côté, je peux investir.
T'es un peu tranquille.
Mais heureusement que j'ai pas été au-delà de ça parce que justement, un an après, Procter & Gamble, qui justement possède les parfums, à un moment on se dit nous on maîtrise pas du tout le sujet, donc on va se débarrasser entre guillemets de ça. Et donc ils revendent en fait tous les parfums à Shiseido.
Okay.
Une boîte chinoise qui, eux, ne font pas des milliards, mais des millions. Donc, c'est, tu vois, on est sur une autre sphère un peu moindre.
Et puis, qui ne te connaissent pas.
Et qui reçoit le contrat sur la table et se dit, mais attendez, c'est quoi ce contrat pharaonique sur un mec qu'on ne connaît pas ? C'est un contrat d'acteur, ça, c'est pas un contrat de mannequin.
Okay.
Et eux, ils ont déjà mis, je ne sais plus, 44 millions sur la table, ou même, bon, j'ai plus les chiffres en tête, même, okay. peut-être même 400 millions, j'en sais rien.
Pour racheter la
pour web. Racheter tous les parts, de, okay. parce qu'il n'y avait pas que Dolce, il y avait Hugo Boss, il y avait Lacoste, enfin, il y avait beaucoup d'autres parfums dans la branche. Mm-hmm. Et le contrat arrive sur la table et il dit non, non, on signe, enfin, ce contrat pour nous, il est caduque, on n'avance pas ça avec ce contrat-là, c'est bien trop élevé.
Ouais.
Ils veulent retenter une négociation, mais je pense que mon agent à ce moment-là pense qu'on a encore ce rapport de force
ouais.
qu'on a finalement perdu parce qu'ils avaient une relation avec Procter & Gamble qui n'ont pas avec Shiseido qui vient de se faire racheter.
Ok, oui, bien sûr, il n'y a tu pas les antécédents, il n'y a pas le feeling, non. tout ça. Et tout ça, ça te passe sous le nez.
Et en fait, ouais, un jour, je reçois un coup de fil de Domenico, justement Dolce, qui me dit je suis désolé, mais le contrat, en fait, il a été rompu et donc on ne shootera pas le parfum. Et moi, en fait, je m'en foutais en réalité de l'argent. Moi, je voulais en fait avoir cette image et ce film, en fait.
Oui.
Tu vois, même pour 50 000 balles, je le faisais, même pour 5 000 euros, même gratuit, en fait, parce que
ouais,
j'avais déjà été, comme
et...
si j'avais été payé en amont.
Ouais, ouais.
Mais je voulais, en fait, que rencontrer Martin Scorsese, je voulais, tu vois, qu'on se dise, OK, le mec, il est à ce niveau-là.
Ouais,
et, et j'ai signé avec Dolce, parce que là, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire, en réalité.
Ouais, mais
parce
évidemment.
Que ça reste du off,
bien sûr.
Tout ce que je viens de te dire.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, quand j'ai ce coup de fil-là, moi, je fais 95, 96 kilos. Je suis énorme.
C'est le moment où je te rencontre. Hein, t'es hyper massif. Hein.
Ouais. Et je me dis, waouh, il va falloir que je revienne sur le marché. Alors que je pensais que j'allais. Parce que c'est un contrat pour moi qui allait durer au moins 10 ans. Et c'est ce que m'avait dit Domenico, en fait. Il m'a dit, moi, je veux faire en sorte que tu deviennes une icône, en fait, comme ce que j'ai fait avec David Gandhi. On a fait des livres sur lui. Tu vois, on a vraiment créé une image, en fait.
Ouais, une brand,
Dolce & Gabbana, complètement.
Ouais, ouais,
ouais. Ouais, c'est un vrai branding, en fait. Ouais. Qu'il voulait faire autour de moi. Donc, le projet était sur du long terme. Finalement, on n'a pas maîtrisé justement tous ces facteurs-là. On ne pensait pas que Procter & Gamble allait vendre. Et tu te retrouves sans rien, entre guillemets.
Tu te retrouves sans rien.
Hors compète, quoi.
T'es hors compète. T'as plus la shape de pouvoir rebondir sur des jobs. Comment, du coup, tu arrives à te sortir de là? Je sais que c'est une phase où on échange beaucoup.
Ouais.
On passe pas mal de temps ensemble à la salle. On retravaille sur tout ça. Et c'est vrai que tu te confies pas mal à moi sur ça parce que c'est normal, comme n'importe quel sportif de haut niveau ou justement dans ton milieu, t'as touché le Graal très tôt, très vite, et puis là t'es dans une phase où tu te dis je bosse plus, on m'appelle plus, la marque qui a racheté les parts de l'autre ne me veut pas, tu te sens un peu rejeté, c'est difficile quand tu travailles dans le milieu de l'image comme toi.
Ah ouais, non, c'est comme je dis, c'est très subjectif, donc il n'y a pas de... Je cours en moins de 10 secondes, je peux faire les JO, tu vois. Il n'y a pas de ça. C'est très au cas par cas, tu vois. Il y a énormément de facteurs que tu ne maîtrises pas.
Bien sûr.
Comme dans l'acting, tu fais ta proposition. Si le Real avait une autre proposition en tête ou s'il a déjà un autre acteur en tête, tu as beau faire tout ce que tu veux.
Oui, bien sûr, évidemment. Ce
n'est pas une performance, en fait.
Il n'y a pas de
chiffres.
Ouais.
Donc à ce moment-là, en fait, tu te dis, est-ce que je vais continuer à plaire? Parce que en fait, je n'avais pas de... background, en fait, à part Dolce, je savais pas ce que je valais sur le marché. Parce que j'avais fait Tom Ford avant, j'avais fait des petites marques. Enfin, Tom Ford, c'est une grosse marque, mais j'avais fait aussi d'autres campagnes, mais j'avais pas des années d'expérience. J'avais même pas un an d'expérience, en fait. Donc, j'arrive dans ce milieu, finalement, où tu repars à zéro. C'est casse départ, en fait.
En fait, tu expérimentes peut-être avec un an de retard ce que tout mannequin expérimente dès le début de sa carrière. Sauf que toi, c'est un peu l'inverse.
Ouais.
Au départ, en général, tu commences par les galères et puis tu gravis les échelons.
Ouais, normalement, le contrat que je signe, normalement, c'est un contrat que tu signes après 10 ans de carrière.
Incroyable.
Et moi, je le signe après un an. Et même mon agent, il me dit, mais je sais pas, j'ai jamais vu ça, tu vois.
Okay.
Mais après, c'est vrai que quand tu retombes, en fait, ça te rend tellement humble. Tu sais, tu fais « Ah ouais, d'accord. »
Peut-être ce dont tu avais besoin aussi.
Ouais, exactement. Là, je souffre.
Ok.
Tu vois, parce que faire Cannes, après ton premier film, signer après moins d'un an de carrière avec Dolce, un contrat pharaonique, et en fait, tu te dis là, est-ce que je suis vraiment légitime? J'avais l'impression de ne pas avoir assez souffert, tu vois.
Grosse remise en question.
Complètement. Et là, en fait, quand tu as ce coup de fil-là et qu'on te dit « Tiens, là, tu vas galérer, tu vas voir ce que c'est. »
Ok.
Parce que moi, je pensais qu'en fait, c'est facile, en fait. Tu vois?
Oui, voilà. Tout le monde m'ouvre les portes, je rencontre un mec à Opéra et puis ça y est, c'est
ça.
C'est ouf.
Et là, tu fais, ah oui, d'accord, là, bienvenue dans la réalité.
Ok. Et effectivement, pendant cette phase-là, on travaille.
Ouais.
Je connais ta facette du travail. Je vois quelqu'un qui est très assidu, qui est très discipliné. Enfin, tout ce que j'aime, moi, dans mon coaching et la prépa, qui n'arrête pas un entraînement, qui est à l'heure, qui prend soin de lui parce que, tu as été habitué. Forcément à prendre soin de toi au niveau corporel, physique, physiologique. On se rapproche beaucoup, on échange plein de choses aussi vachement perso.
Ouais.
bon, des choses, tu vois, je ne connaissais pas tout. Hein, tu m'as appris plein de choses aussi aujourd'hui, ouais, c'est ça qui est génial. Et puis, bah, tu arrives à te remettre en shape. Ouais. Surtout, je me rappelle d'un jour où tu me dis, Tony, j'ai 3 semaines pour perdre 2 cm de tour d'épaule. Je dis, sérieux, lui? Je dis, ouais, ça ne va pas ou quoi? Et puis, on se met au taf et puis ça marche.
Ouais.
Et puis, tu commences à rebosser, tu regravis un peu les échelons. Tu nous parles de ça, ce qui permet aussi, ouais, de revenir un petit peu à flot. Hein. C'est le facteur réussite. On peut même lancer ce paragraphe sur la réussite et sur le fait que tu retrouves un peu cette réussite et ce succès.
Ouais, je suis tombé. C'est une dépression, c'est une vraie dépression à ce moment-là. Hein.
Ouais.
Parce que on t'envoie des castings et après, t'as créé cette image de ouais, il est. Non, mais en fait, Aurélien, je le connais, il est trop balèze. Enfin, tu vois, tous les clients, c'était ça le retour. Et en fait, mon agent, il n'arrivait même plus à me faire rencontrer les clients. Non, mais c'est bon, je connais. Tu vois, et en fait, il fallait casser cette image.
Mmh.
Et en fait, on a parlé des rencontres. T'en fais partie en réalité parce que tu m'as fait. Je t'ai pas rencontré par hasard. Tu vois ce que je veux dire? C'est, si je te rencontre à ce moment-là, c'est pour que tu me remettes le pied à l'étrier et que tu me dises non, on va bosser, tu vas repartir en compète en fait. Parce que là, j'étais sous le banc de touche en fait.
Ouais.
Là, j'étais. J'allais pas dire dans le quart, mais tu vois, j'étais pas loin, quoi. Tu vois, en te disant, tu restes au vestiaire, je pouvais même plus sortir sur le terrain, m'entraîner, en fait.
Mmh.
Parce que les clients me disent, non, mais c'est bon, on le connaît. Oui, mais je suis pas qu'une brute épaisse, en fait.
Évidemment.
J'étais. Dolce voulait un certain physique, mais maintenant, il faut respecter les règles du jeu. La veste standard qui est un 50, je suis un 56. Donc, tu vois, j'ai dit, OK, c'est très dur, parce que ça devient addictif aussi à la salle de sport.
Tu me l'as toujours dit d'ailleurs, tu m'avais dit si j'étais pas dans ce milieu-là, je pense que j'aurais vrillé culto.
Hein. Ah ouais, à un moment donné. Et puis c'est pas. Tout s'explique, hein. ça crée une carapace, tu vois, c'est forcément.
Évidemment.
T'as envie de.
Le bouclier.
Bien sûr.
Bien sûr.
Donc tu te crées une couche épaisse de peau, tu sais, pour te dire, il n'y a rien qui passe.
Évidemment.
Et, on a bossé. Donc encore une fois, tu vois, tu fais partie des gens de ces rencontres-là qui m'ont renvoyé en compète et ça m'a permis de décrocher le contrat Guerlain en fait parfum l'homme idéal.
C'est là que je t'ai vu partout sur toutes les affiches dans Paris et même ailleurs hein, des fois je me rappelle
à l'aéroport, enfin, tu vois, ouais, et c'est et enfin tu vois j'avais mon affiche de parfum parce que je l'avais pas pour Dolce alors que j'avais gagné immensément fois plus que Guerlain qui reste quand même une très belle maison. C'est un parfum magnifique, la maison est extraordinaire. Et en plus, Fred, mon agent, s'est battu pour qu'il me voie.
Oui, bien sûr.
Parce que.
Et puis même, au-delà de l'argent, je pense que c'est la fierté de représenter une marque comme ça.
Marque française.
Marque française, tu vois.
Gros héritage, très, très respecté.
Tiens, on parie sur ce mec-là, alors que quelques mois avant, on te rejetait pratiquement tous les castings. C'est dingue.
Ouais. Et là, je rencontre le directeur de la maison Guerlain. Et le photographe qui shootait les plus grandes stars, il avait shooté Angelina Jolie justement, parce que j'avais fait la campagne avec Angelina Jolie à cette époque.
Rien que ça.
Ouais. Non, ça a été, franchement, pour moi, ça a été un honneur et tu vois, un privilège de shooter pour cette maison. Et en fait, c'est ce rendez-vous qui a fait que j'ai pu signer ce parfum, parce qu'il voulait rencontrer la personne. Et on a fait ce qu'on est en train de faire là avec ce monsieur. Et il m'a dit, waouh, ton histoire, elle est. Extraordinaire, tu vois. Donc en fait,
génial.
Tout vient de ton éducation, tes valeurs et ce que t'en as fait en fait.
Tu vois, le R de réussite pourrait marcher pour rendez-vous, pour rencontre.
Complètement.
Franchement, voilà, c'est ce qui te caractérise. Ouais. J'ai même envie de te dire, c'est peut-être la lettre du mot inspire qui te caractérise le plus.
Ouais.
C'est assez dingue. On avance un petit peu. C'est aussi grâce à ça que ça repart, que ça rebosse, qu'on est demandé partout. Tu voyages dans les quatre coins du monde, je me rappelle. On va faire un petit week-end prolongé au Portugal et puis à peine on atterrit, on te voit sur un encart au sud du Portugal. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis ça défile. Donc, mais malgré tout, et c'est pour ça qu'on va passer au E de évolution et prochaines étapes, toujours dans un coin de ta tête, il y a l'acting. Toujours ça revient. Même si tu as de nouveau du succès, que ça cartonne, que tu es demandé, que tu fais des shows partout aux quatre coins du monde, des shootings, tu représentes plein de marques. Tu as ce truc avec l'acting qui t'agrippe et tout.
Ouais.
C'est donc nos prochaines étapes, prochaines évolutions, tes prochaines évolutions. Ouais. Tu décides, il y a peu de temps, de te lancer, de te dire, voilà, maintenant, l'acting, effectivement, c'est quelque chose qui est bien ancré. J'ai les systèmes, j'ai les codes, j'ai la maturité. Ça me permet de bien gagner ma vie, de continuer à m'épanouir. Mais il me manque cette passion. Ouais. J'ai envie de me tenter vraiment l'aventure et de me mettre à 100%. Et tu décides de repartir tel un rookie en te disant « je vais apprendre le métier et je vais commencer une école, je vais faire des formations ». Tu nous parles de ce choix-là ?
Oui, bien sûr. Je te dis, la naissance de ma fille, on est en plein confinement. Donc, ça me permet de mettre sur pause et de me dire qu'est-ce que je veux faire vraiment, en fait. Qu'est-ce qui est... Est-ce que ton rêve... est-ce que tu as atteint justement tous tes objectifs et tes rêves, surtout, en fait. Et là, j'en parle à ma femme. Enfin, ma femme qui est aussi... c'est toute ma vie, en réalité. Ouais. C'est aussi un repère dans la nuit, tu sais,
bien
dans
sûr.
L'ombre. Et elle me dit, vas-y, lance-toi, en fait.
Elle t'encourage.
À 400%. Et donc là, je commence à regarder les écoles autour de moi. Je voulais pas faire une école parce que je voulais pas m'asseoir sur un banc et écouter quelqu'un, tu vois. Je voulais pratiquer tout de suite parce que je savais que j'avais ça en moi. On dit toujours, on a tout vécu. Et moi, j'ai tout vécu et je pense que j'ai besoin, en fait, de devenir après le messager et défendre un personnage et en fait me servir, tu vois, de mon corps comme étant le moyen de communication.
En fait, tu n'avais plus envie d'être vu comme Aurélien Muller,
non,
mannequin,
il est beau,
c'est une affiche.
Moi, ce que je voulais voir maintenant, c'était à l'intérieur. Tu vois.
Okay.
Et je me dis, ok, oui, j'ai ce physique, mais en fait, il va peut-être même me porter préjudice dans cette nouvelle activité.
Un gros moment d'introspection aussi.
Parce que je l'ai pris aussi, ça, dans la figure. Bon, ça fait maintenant 3 ans que je m'entraîne avec Jean-Bernard Fétussi, qui est le coach de Léa Seydoux. Mm-hmm. Et il m'a dit, t'as un physique, il n'y a rien à dire. En fait, quand tu rentres sur scène, c'est la première chose qu'on voit. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que dans les 5 premières minutes, il faut qu'on arrive à te faire oublier ton physique. Parce que si on n'arrive pas à... Si ton jeu ne dépasse pas ton physique, t'as perdu, en fait.
Est-ce que c'est pas très français, ça ?
Si, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Mais en même temps, ça te pousse à aller chercher dans ton jeu quelque chose de beaucoup plus sincère, beaucoup plus intense.
On est d'accord.
Tu vois ?
Mais alors, pas forcément ce que je voulais dire par rapport à ce qu'il t'a conseillé, mais la perception du public français sur « Ah, lui, de toute façon, il est beau, voilà.
» Il a réussi parce qu'il est beau.
Tu vois, c'est marrant parce qu'on n'a pas ces sensations-là quand on va voir des acteurs américains, des acteurs anglais qui déchirent, qui sont physiquement beaux gosses, 2 mètres. Tu vois,
mais au-delà de la beauté, ils sont tous charismatiques, en fait. Parce qu'il y a même des gens qui sont moins beaux, mais ils ont un charisme tellement incroyable qu'à l'écran, ils prennent tout, tu vois.
C'est quand même assez dingue qu'en France, moi je te le dis, c'est pas parce que t'es mon poteau, mais des personnages comme toi, des physiques comme le tien, il y en a pas beaucoup. C'est dingue qu'à peine tu te dis, allez, je vais me former, je fais des écoles, tout de suite on te dise, voilà, ton physique, il faut qu'on arrive à l'oublier.
Ouais.
C'est fou ça. Alors finalement, ça t'a aidé, je pense, dans ta formation.
Ouais.
Mais c'est la première chose qu'on te dit à peine que tu montes sur scène.
Le premier training que je fais avec JB, il me dit, ce sera pas pour toi.
C'est pas vrai.
Ouais. Parce que je t'achie aussi. Hein. Okay, il me demande de faire une lecture, je sais pas ce que c'est. Tu vois, il me demande de jouer. Ben, en fait, tu te regardes parce que t'as des faux réflexes de mannequin. Donc, en fait, tu t'oses pas, t'amochis, entre guillemets. Et après, quand ça dure une semaine, ce training. Et au 3e jour, j'ai un déclic, tu vois, où il me dit... c'est plus toi sur scène. C'est je jouais en fait mon roi, c'était une scène de mon roi.
Ouais.
Et il me dit c'est ce pervers narcissique. Toi tu n'es plus là. Toi t'es que ton corps, l'enveloppe corporelle. Mais Aurélien il est plus là. C'est plus les pensées d'Aurélien là. C'est les pensées de ce pervers narcissique. Et en fait une fois qu'il m'a dit là où vous êtes deux sur scène, il y en a un trop. Sors.
Génial.
Il
t'apprend à switcher et à devenir un personnage.
Et une fois que maintenant je monte sur scène. Bah, moi, je suis resté dans le public, en fait.
Ouais, trop bien, trop bien. Donc, tu fais ces formations depuis maintenant pas mal de temps.
Ouais.
Et ça commence à payer, puisque on te propose des courts-métrages, on t'invite.
Un long aussi.
Un long, t'as un agent, etc. Ouais. C'est vraiment maintenant ton objectif principal dans ta carrière.
Bon. Moi, pour te donner un exemple, quand on m'a appelé c'était 6 jours de tournage pour un long-métrage belge. C'est Hélène Katté et Bruno Forzani, un film qui va sortir là en automne 2024 qui s'appelle Reflet dans un diamant mort, tu vois, qui est payé une misère parce qu'évidemment tu commences au plus bas de l'échelle en tant qu'acteur. J'étais comme un gosse quand ils m'ont appelé, qu'ils m'ont dit on t'a retenu sur une self-tape, tu vois, parce qu'aujourd'hui on fait des self-tapes beaucoup plus, c'est très compliqué.
Depuis le Covid d'ailleurs.
Parce qu'il n'y a pas de direction d'acteur, il n'y a rien, donc tu fais une proposition, tu ne sais pas si ça va plaire, et t'envoies ça, donc... T'es très vulnérable, c'est ton jeu, tu vois, c'est pas juste tu fais des photos,
Ouais, bien
donc
sûr.
En fait, t'as quand même, c'est une mise à nu. Hein.
Ouais, et puis t'as le côté en mouvement, parce que la photo, ou même, même si évidemment, par exemple, pour des défilés, t'es en mouvement, mais je sais qu'il y a certains codes à respecter sur la posture,
bien
sur la démarche, etc. T'es quand même très structuré. Là, sur l'acting, t'es en mouvement. On va, on va juger les mimiques, on va juger
ta sincérité, en fait.
Exactement.
Ta sincérité
donc,
dans le jeu, alors que
un nouvel exercice.
Alors que le mannequinat, quand on demande de faire une vidéo, t'es que dans le charme. T'es que dans quelque chose de très solaire. Ouais, voilà, il y a de la séduction. Alors que là, on est que dans le personnage. Si tu dois jouer quelqu'un qui est complètement, qui a une colère extrême ou quoi, en fait, il faut que tu sois incarné, quoi. Et en fait, quand ils m'ont appelé, j'ai appelé tout de suite ma femme et tu vois, j'étais en pleurs, quoi.
Mais c'est génial parce que tu vois, c'est là, ça signifie vraiment que c'est ta passion parce que là, il n'y avait pas du tout de caractère financier, pas forcément d'objectif sur le long terme. C'était juste te dire, j'ai passé un casting, un self-tape, je l'ai eu, ils font confiance, je vais tourner.
Ouais, ils m'ont validé, tu vois.
Ouais.
C'est la validation de personnes qui ont déjà fait une dizaine de films et qui se disent, lui, il m'intéresse, tu vois.
Mais ça valide aussi le choix que tu fais de te dire, je vais me former. Je vais me lancer dans cette carrière.
Et je continue encore plus.
Ok.
Et derrière, là, j'ai un court métrage justement qui est en compétition qui s'appelle Mi Fuego pour le Nikon, le festival Nikon. Pareil, c'est une aubaine, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est une histoire vraie qui m'a touché énormément, qui est très très touchy parce qu'on parle quand même du suicide dû à la solitude, le mal-être, tu vois, les addictions. Mm-hmm. Et je dois respecter aussi la personne. Lui rendre honneur, lui rendre hommage. Donc, c'est assez lourd. Et finalement, il a été reçu de manière extraordinaire. J'ai même eu des retours de sa famille, qui pour moi est la plus belle des récompenses.
Magnifique.
Qui me disent merci, en fait. Merci d'avoir respecté la mémoire de... Et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qu'il a ressenti. Et merci de ne pas l'avoir caricaturé ou, tu vois, au contraire, de l'avoir minimisé. Vous êtes juste, quoi.
Ça te motive encore plus.
Je m'en fous du Nikon maintenant, tu vois ce que je veux dire.
Évidemment.
J'ai eu la plus belle des récompenses.
C'est clair.
Mais maintenant, comme je vois qu'il prend énormément de poids, en fait, dans cette compétition, évidemment que j'ai envie que le message soit relayé un maximum et que je puisse sensibiliser un maximum de monde. On fait aussi du cinéma pour ça, parce que... moi j'ai grandi comme ça, c'est qu'il y a des films qui te font penser différemment ou qui te nettoient l'âme aussi, tu sais.
Complètement.
Et qui te
touche.
Ouais, qui te touche. Il y a forcément un film qui, tout de suite qui te vient en tête, tu vois, qui t'a fait changer ta façon de penser ou qui t'a même guéri.
Ouais.
Tu vois.
Bien sûr. Donc, peu importe que ce soit de la fiction ou des histoires vraies.
Et ce genre de projet, pour moi, c'est on est en plein dedans, en fait. D'accord. C'est faire du film pour du film, ça m'intéresse moins, tu vois. Mais un film avec une portée. Tu vois, où ça vient vraiment bouleverser la vie des gens, ça c'est...
Et ça, c'est une orientation que tu veux avoir dans le côté artistique, choisir des projets qui, au-delà de...
Si j'ai la chance de choisir, je suis déjà loin.
Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais on va dire que dans ton idéal, ce serait de défendre des projets qui ont vraiment des valeurs et qui transmettent des messages, plus que de la fiction en mode, je sais pas, moi, t'es le Thor.
Je le prends demain.
Ah, bah voilà. Parce que là, si t'es le Thor, on peut repartir dans une prépa.
Bond, je prends Iron Man, je prends...
Ok, on est d'accord.
Je fais un Marvel à moi tout seul.
Ce serait sympa pour la prépa, ça. Te dire, allez, on se remet sous le bench et puis on n'a plus de limite.
Qu'est-ce que j'adore, je te jure.
Bah, c'est la magie, en fait, de ce métier-là. C'est de pouvoir passer d'un extrême à l'autre. Ouais. Je pense que c'est ce qui t'intéresse, cette mise à nu. Et
surtout de se protéger aussi, savoir retrouver son identité très vite, déconnecter, parce que je suis quelqu'un de très obsessionnel. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé le métier de l'acting, tu vois, par exemple, je prends la scène du training du pervers narcissique. J'étais devenu un pervers narcissique toute la semaine, en fait. J'étais devenu très chiant à vivre, très imbuvable, tu vois. Et donc, en fait, quand on dit couper, il faut couper.
Ok, mais ça, c'est l'expérience qui t'a donné ça.
Exactement.
Voilà.
Et en fait, il faut réussir à trouver cet équilibre-là. Mais en dehors de ça, franchement, pour moi, l'acting, c'est un exutoire, en fait. C'est tout ce que je vois chez ma fille.
D'accord.
Ma fille, elle est au théâtre en permanence. Elle a envie de crier, elle crie, elle a envie de danser, elle danse, elle a envie de, tu vois,
elle se
raconte des histoires en permanence. Et en fait, nous, on s'est bridé au fur et à mesure du temps par le regard des gens. Mais quand tu vois ta fille qui tombe 1000 fois, mais qui se relève 1001 fois, et que toi, au bout d'un échec, tu fais, c'est pas pour moi. mais c'est elle qui t'apprend
ça,
la vie, en fait.
C'est hyper inspirant ce que
l'échec,
tu dis.
L'échec, il fait partie de ton succès. Il faut vivre comme des enfants. Il faut Et c'est pour ça que je connecte énormément avec Jean-Bernard Fettucci, mon coach, qui avait appelé justement, et c'est pas pour rien, son école Les Enfants Terribles, parce qu'il faut rester un enfant terrible, en fait.
C'est génial. Et puis en plus, j'imagine que de par un peu tous les hauts et les bas sur lesquels on est revenu par rapport à ta carrière de mannequinat, tu utilises cette expérience, cette maturité-là, pour te faire redescendre, comme tu dis, couper quand il faut, avoir ton rôle de papa, ton rôle de mari, et puis ton rôle d'homme, garder cette spontanéité que tu peux avoir, parce que bon, on aime bien déconner quand même, là, tu vois, c'est important. Moi, je dis toujours, ne pas se prendre au sérieux, mais prendre son métier au sérieux. Exactement. Pour moi, c'est très important d'avoir ce recul-là, et j'ai l'impression, en tout cas, quand je te vois là, face à moi, que le métier d'acting te donne cette flamme-là.
Ah ouais, complètement. Ça m'anime et enfin, je sais pas, tu prends du plaisir en permanence et c'est surtout de te challenger parce que tu te découvres en fait. Tu te découvres en permanence. Tu fais, waouh, j'ai ressenti un truc là, je connaissais pas, tu vois.
Génial.
Et c'est là-dedans que des fois tu vas te perdre. C'est le vide.
Ouais.
Et des fois, je me rappelle, j'ai joué des scènes et une fois que la scène se termine, tu sais même plus ce que t'as fait en fait. Tu vois,
c'est génial.
Et en fait, en regardant les images, tu fais ah oui, d'accord, ok.
Bah, trop bien.
Et ça, c'est. Non, c'est. Ouais, voilà, c'est une vraie passion, en réalité.
Aurèle, je suis ravi de t'avoir eu dans ce podcast.
Merci
de m'avoir reçu. C'est génial. Finir sur cette note-là, je peux que te souhaiter le meilleur.
Merci.
Parce que, voilà, je sens quelqu'un de motivé et d'extrêmement passionné. Et pour moi, je te rejoins un petit peu. Hein, quand on est motivé, passionné, qu'on compte pas ses heures. Le travail finit toujours par payer, donc je te souhaite tout le meilleur, que ce soit pour les projets que tu viens de faire et tous les autres à venir.
Merci beaucoup.
Merci encore de m'avoir donné de ton temps.
Bah, c'était un grand plaisir.
Et puis on se dit à bientôt autour d'une salle de sport, un café ou que sais-je.
Avec grand plaisir.
Un tennis, un basket, on verra bien. Merci à toi.
Merci, ciao.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Inspire. Comme ça, vous n'en raterez aucun des prochains. À plus.